Merci à l'IMAOV, l'Institut des médecines alternatives et ostéopathie vétérinaire, de sponsoriser cet épisode. Sur cette saison 2, nous avons eu de nombreux invités qui ont enrichi leur pratique avec des médecines complémentaires, ce qui nous démontre que l'attrait pour ces manières différentes de pratiquer la médecine est grandissant. L'IMAOV propose des formations de grande qualité, exclusivement réservées aux vétérinaires, et ce depuis 25 ans. Une formation diplômante en ostéopathie qui prépare au DIE, Diplôme Inter-École Ostéopathie Vétérinaire, mais aussi en acupuncture et également bien sûr en physiothérapie et phytothérapie. Les sessions de formation se déroulent en région parisienne ou lyonnaise, en petits groupes, ce qui permet de consacrer 50% du temps à pratiquer. C'est important aussi de dire que vous pouvez bénéficier d'une prise en charge par l'organisme OPCO-EP ou d'autres organismes comme FIFPL ou France Travail par exemple. Si vous aussi vous avez envie de faire les choses autrement pour soulager l'animal et être dans la prévention, en complément de la médecine allopathique et du curatif bien sûr, je vous invite à consulter le site internet imaof.com où vous trouverez toutes les informations utiles. Merci à l'IMAOV de soutenir ce podcast. Et maintenant, place à l'invité.
Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Themavet.
Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires.
Et moi, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job.
Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire.
Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes. Parler de notre rapport au métier, bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous.
Belle écoute.
Bonjour à toutes et à tous. Interview exceptionnelle aujourd'hui pour le dernier épisode de la saison 1 puisque mon invité n'est autre que Sophie Wilforn. Salut Sophie, comment ça va ?
Salut Marine, ça va bien. Merci.
Alors, je m'étais prêtée à l'exercice il y a quelques mois pour le lancement de Themavet et aujourd'hui, c'est à ton tour d'être de l'autre côté du micro et j'avoue que cette fois, ma place est plus facile. Alors Sophie, t'es sortie de Liège en 2007 et là, accrochez-vous parce que la réputation multicasquette de la vétote zébrée qui est en face de moi n'est pas usurpée. Tu as commencé ta carrière en tant que praticienne, mixte d'abord, équine ensuite, puis il y a eu des remplacements et du volontariat en Thaïlande, au Pérou et dans les îles Cook. Ensuite, un internat en équine au Pays de Galles. Je précise, tu es anglo-belge. Puis une résidence en médecine interne équine au Royal Veterinary College of London, sans l'accent. Cette expérience de résidence, elle n'a pas été simple. Elle t'a cramé, hein. C'est comme ça que tu le dis sur l'interview écrite que j'ai faite de toi avant Veto Micro et que nos auditeurs peuvent d'ailleurs retrouver sur le site de presse de Themavet. Donc à ce moment-là, malgré ce collège européen en médecine interne équine, tu fais le point et virage à 360 puisque tu décides de rentrer dans l'industrie pharma chez Audevar où tu resteras plus de 5 ans. Puis il y aura un MBA à l'EDEC, puis la création de SeeMyVet, d'abord sur un projet de télémédecine avec un pivot rapide puisque vous vous êtes très vite recentré sur les besoins fondamentaux de la profession. Entre autres avec le podcast, c'est comme ça qu'ont eu lieu nos premiers échanges au travers d'un partenariat entre Parole de Veto, ton podcast et Veto Job. Puis en 2021, tu intègres le groupement Covessia en tant que directrice marketing et communication avec une partie RH et formation. Et en 2022, on commence Veto Micro. Voilà où tu en es aujourd'hui. Alors les auditeurs n'ont pas entendu ta voix depuis quelques mois. Certains se sont peut-être posé la question de savoir pourquoi j'avais repris 100% des épisodes sur cette fin de saison. C'est parce que tu étais arrêtée, tu es toujours arrêtée d'ailleurs, pour un burn-out dont tu es en train de te remettre. Voilà, c'est encore hyper frais donc on n'abordera pas cette partie parce que tu estimes que tu n'as pas encore le recul nécessaire pour en parler. Et puis voilà, il y a plein d'autres choses à raconter sur ta carrière. On y va ?
Oui, on y va.
Je ne me suis pas trop trompée.
Non, pas du tout. Je suis fatiguée rien qu'à t'entendre faire le débrief de ma carrière. Donc non, je ne t'ai pas trompée du tout. Merci pour ça.
Bon, et ma première question, oh surprise, tu ne t'en doutes pas du tout. Pourquoi tu voulais devenir vétérinaire ?
Sans surprise pour les auditeurs, comme toute petite fille ou petit garçon qui aspire à faire vétérinaire, j'étais en contact des animaux, beaucoup d'animaux chez moi et on avait un vétérinaire rural qui venait à la maison, donc c'était l'époque où il faisait encore les castrations de chats et les ovarios sur la table de la cuisine Et le jour où j'ai compris petite fille ce qu'il faisait, j'ai dit moi je veux faire ça. Aussi, je préciserai, puis ça c'est une petite allusion à mon côté anglo-belge, moi je fais pas partie de la génération d'Actari, je fais partie de la génération James Herriot.
Oui.
T'as l'air de connaître.
Non, mais effectivement, si t'es anglo-belge, d'Actari, non quoi.
Voilà, exactement. Et donc j'encourage ceux qui ne connaissent pas James Herriot, il y a certainement des traductions, c'est des histoires incroyables sur le monde vétérinaire rural anglais de l'époque.
D'accord, ok. Donc du coup, tu arrives en école vétérinaire à Liège. Qu'est-ce que tu gardes de cette partie-là, de tes études ?
Écoute, j'ai fait Namur puis Liège, donc 3 ans à Namur, 3 ans à Liège. Pour ceux qui ne connaissent pas le système belge, en fait, toute la partie francophone se termine à Liège, mais on a la possibilité de faire nos 3 premières années ailleurs que à Liège.
D'accord, donc en fait, on est diplômé de Liège à la fin, mais en fait, on a pu commencer ailleurs.
Voilà, exactement. Et je précise parce que moi, j'ai particulièrement apprécié la partie Namur et moins apprécié la partie à Liège. Namur, c'était une petite ville belge où tout le monde se connaissait. On était beaucoup plus mélangé aux autres facultés. C'était une transition plutôt douce, on va dire, vers le milieu universitaire. On était plus encadré, moins nombreux. Et c'est quelque chose que vraiment j'ai apprécié beaucoup. Il y avait aussi évidemment pas mal de festivités estudiantines aussi, mais beaucoup plus soft que celle qu'on connaît de Liège. Et le saut à Liège a été un peu abrupt pour moi. J'ai fait mon baptême et je l'ai pas forcément super bien vécu, même si à la fin j'étais contente de l'avoir fait parce que évidemment ça crée beaucoup de liens entre nous. Et ce que je retiens de Liège, c'est aussi de passer sur le côté pratique des choses. Donc ça, on est content, hein, tailler, de mettre les mains dans le cambouis. En tant que futur vétérinaire, et des années qui finalement sont passées très vite, et je me suis retrouvée très rapidement finalement prête à m'engager dans le monde véto.
Bon, on arrive justement à ton entrée dans la vie active. Je me souviens que quand on avait fait cette interview écrite, tu m'avais dit qu'au début de ta carrière, tu avais démarré dans une clinique qui avait bien failli te dégoûter du métier dès le début, donc c'était quand même assez fort. Est-ce que tu peux nous raconter cette entrée dans la vie active?
Ouais, ce que je préciserai avant de passer sur ce chapitre-là, je pense que c'est plus ou moins pareil en France. Voilà, on a des stages, hein, comme partout. Et moi, je prenais le temps de aussi, pendant mes vacances, j'avais la chance d'avoir des premières cesses, d'aller passer du temps dans des cliniques et déjà me former les petites chirurgies de convenance, par exemple. Et la raison pour laquelle je précise ça, c'est que je pense que ça m'a sauvée sur justement cette partie difficile, parce que ça m'a donné une perspective de la profession qui était tout autre que celle que j'ai rencontrée dans mon premier job. Donc mon premier job, j'ai pris la décision d'aller directement en Angleterre après la Belgique, parce que déjà mes sources, je parle couramment anglais et
tu as vécu en Angleterre ?
Pas du tout. Donc je suis née en Belgique. Évidemment, je suis retournée souvent en Angleterre. J'avais de la famille là-bas, donc toute petite, on y allait 3-4 fois par an. J'ai connu le bateau avant l'Eurotunnel, toute une époque.
Effectivement, toute une époque.
Et donc, j'avais eu la chance de passer du temps aussi là-bas, de voir des vétos là-bas, et j'étais très attirée, d'une part par l'approche de l'animal, hein, qui est beaucoup plus anthropomorphique, on va dire, que chez nous, et du coup découle de ça tout un nombre de choses qui font que il y avait beaucoup d'investissements faits dans les soins vétérinaires. Et donc voilà, je suis allée là-bas juste avant de passer dans ces cliniques. J'ai fait un mois de d'internat. Enfin, c'était un internat. C'est un mois de, ils ont externat, ils appelaient ça à l'IPOUC. Donc c'est une grosse clinique équine en Angleterre. Et puis je suis allée à ce job à Leighton Buzzard dans le nord de l'Angleterre.
Et qui était en mixte.
Mais du vrai mixte. C'est-à-dire que la plupart du temps, je passais en consulte. consultes petits animaux, c'était des consultes de 5-10 minutes maximum dans un sous-sol avec un turnover enfin incroyable, c'était l'autoroute de la consultation.
Un cadre de travail qui est pas très engageant quoi.
Pas du tout du tout du tout. Le week-end, j'étais de garde mais du coup en mixte et je me retrouvais bon à gérer des bovins, des ovins, j'appelais des amis, les bouquins et
donc,
pas
stressant,
du tout,
ouais, en plus,
hyper stressant. Je me rappelle je rentrais, j'habitais à côté. Donc quand j'avais l'occasion de rentrer déjeuner, je rentrais déjeuner et je faisais des siestes mais de malade parce que j'étais juste éclatée tout le temps juste sous la charge mentale et la pression que tout ça me mettait dès le début de ma carrière finalement. Et je me suis dit, oh, c'est ça, est-ce que c'est ça véto, est-ce que c'est ça être vétérinaire, parce que si c'est ça, je ne tiendrai pas le coup quoi. Et j'ai eu le courage de dire ok, il faut que je quitte cette clinique, parce qu'évidemment j'avais toutes les injonctions de me dire non mais tu peux pas quitter un boulot au bout de 7 mois,
il faut tenir, on est formaté pour ça,
c'est normal que ce soit dur au début, toutes ces choses là et je me suis dit mais en fait non, c'est pas normal que je sois dans cet état là et donc j'ai pris la décision de quitter cette clinique et j'ai eu la chance de trouver une super, par contre, clinique qui a suivi en mixte, mais équine et petits animaux, qui a été juste formidable, avec des gens super qui m'ont soutenue, qui m'ont donné une toute autre vision du métier. Et ça y est, j'avais l'impression que ça y est, j'étais lancée dans le boulot de praticienne par ce biais-là.
Donc tu t'aperçois finalement qu'en fait cette première expérience hyper violente et déceptive, finalement c'est pas forcément monnaie courante et qu'on peut changer et trouver autre chose. Et qu'est-ce que ça t'apporte cette expérience qui est plus longue, qui a duré combien de temps la deuxième?
Ouais, je pense que je suis restée 2 ans et demi à peu près, il me semble. Elle m'a apporté énormément de choses. La première chose qui me vient à l'esprit, c'était 3 petites cliniques, en fait. Enfin, il y avait une grosse, on va dire, centrale, et puis 2 autres petites cliniques satellites, on va dire, dans d'autres villages. Et il y avait un esprit très familial. Et l'esprit familial, il se ressentait autant au niveau de l'équipe des vétérinaires que au niveau de l'équipe des ASV, entre vétérinaires et ASV, et au niveau des clients aussi. Et donc ça, c'était un cadre que j'ai trouvé très sécurisant. Il y avait beaucoup d'entente, de bienveillance. Il y avait aussi beaucoup d'accompagnement sur la formation, si on le voulait. Hein. C'est malgré tout, ça reste quelque chose d'important quand on est jeune vétérinaire, mais pas forcément de la formation en dehors de la clinique. Il y avait aussi beaucoup de formation avec les vétérinaires seniors. Pour exemple, quand je suis arrivée, une des vétérinaires seniors partait en congé mat 6 mois plus tard. Elle venait d'annoncer sa grossesse. Et donc, elle m'a pris sous son aile et elle m'a formée. Elle gérait, s'occupait de la plus grosse clinique et gérait toute la chirurgie. Et elle m'a pris sous son aile pour me former dans toutes les chirurgies qu'elle faisait à l'époque pour que je puisse la remplacer quand elle partait. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de super, qui m'a donné beaucoup. Beaucoup de confiance. Le vétérinaire, je me rappelle aussi, seul associé en fait, hein, finalement, lui était vraiment pour qu'on essaye des nouvelles choses. Si on arrivait en disant, la machine écho, ça commence vraiment à pas le faire, est-ce qu'on peut envisager peut-être de... Voilà, il prenait toujours en compte notre avis et était pour faire avancer la clinique si évidemment c'était intéressant, rentable pour lui, mais il était très ouvert et ça, c'était hyper agréable. Et enfin, ce que j'ai appris là-bas, c'était le travail en partenariat avec les ASV. Déjà en Angleterre, c'est pas des ASV, hein, c'est des infirmières, on les appelle des vet nurses. C'est très structuré, il y a toujours une head nurse dans la clinique avec qui je me suis liée d'amitié, avec qui j'ai encore des contacts aujourd'hui, qui elle aussi m'a pris sous son aile en tant que jeune vétérinaire, parce qu'elle avait plus d'expérience que moi. Faut savoir que là-bas, il y a beaucoup de délégations d'actes, donc il y a plein de choses qu'elle savait faire que moi, je ne savais pas faire.
Oh, mais même en France, moi, je me rappelle d'une ASV qui m'a appris à faire une prise de sang dans un remplat.
Ça rend humble, hein.
Ah, ça rend humble, oui, tout à fait.
Donc ça, c'était vraiment formidable, et je me rappelle, je pouvais partir en équine Voilà, je pouvais partir en équine la journée, l'après-midi, après mes chirurgies du matin, et je savais que j'avais toujours une ASV, une infirmière qui s'occupait de mes cas, qui pouvait m'appeler si jamais il y avait un stress. Moi, je pouvais l'appeler pour voir si tel ou tel traitement était fait. Enfin, c'était vraiment des vrais binômes, en fait, de travail. Et ça, ça m'a appris beaucoup de choses aussi.
D'accord. Donc, cette deuxième expérience, elle te donne confiance en toi et t'apprends aussi à travailler en équipe. Qu'est-ce qui fait qu'au bout de 2 ans et demi, tu décides de partir?
Alors, ben, j'avais toujours en tête, quand j'ai commencé ma carrière et même avant, que je voulais faire l'équine. J'étais un petit peu dégoûtée de l'équine à la fin de la fac. Je pense que, bah, comme beaucoup de, comme beaucoup de facs, il y a toujours peu d'équine et puis c'est pas forcément la vision, voilà, la vision de la médecine interne, par exemple, qu'on voudrait avoir. Donc on se dit, bon, bah, si c'est ça l'équine.
L'excellence de l'équine.
Voilà, voilà. Bof. Mais mon internat, mon fameux externat, là, que j'avais fait à l'IPOUC, m'avait quand même redonné goût et m'avait un petit peu vendu le truc de nouveau en me disant, ah là, ça a quand même l'air génial de travailler dans une grosse clinique équine ambulatoire, enfin, qui faisait de l'ambulatoire et de la clinique. Donc, il y avait l'idée qui était là, qui vivotait. Et en fait, chose que j'ai pas précisé non plus dans ce deuxième boulot qui était super aussi en termes de rapport, on parle beaucoup aujourd'hui de vie pro, vie perso. Nos gardes, elles étaient quand même assez conséquentes parce qu'on faisait petits animaux et de l'équine. Donc, bon, je pouvais me retrouver, voilà, à être en train de faire une césarienne de chienne et puis devoir aller voir une colique ou inversement. Bon, c'était quand même des week-ends assez chargés. Mais du coup, pour pallier à ça, on avait toujours congé le jeudi avant, le week-end de garde, et congé le mardi d'après.
D'accord. Ce qui est cool pour te remettre.
Génial, génial. Ça te permet non seulement de te remettre, mais en plus, voilà, de faire des choses, c'est bête, mais parfois, des choses administratives qu'on a besoin de faire en journée, qu'on peut jamais faire quand on est véto.
Tout à fait, ouais.
Bah, on peut le faire. Et ça, c'est des vrais temps de repos, en fait. Et on avait, en plus de ça, le vendredi après-midi, la veille du week-end, avant le week-end de garde, on avait congé l'après-midi. Donc, on avait un week-end de 2 jours et demi avant. Enfin, tout ça pour dire que, du coup, bah moi, j'utilisais un de ces jours pour continuer à me former en équine. Donc, j'allais à l'IPOUC. En fait, cette clinique-là, elle était pas loin d'où on était. Mmh. Et je référais beaucoup de cas là-bas. Et donc, une fois par mois, j'allais passer mon temps là-bas à continuer à me former. Et bah de là est née, évidemment, l'envie de potentiellement faire un internat. Et donc, y a eu un... on va dire un concours de circonstances assez fortuit, c'est que la clinique où j'étais voulait diminuer en effectif. Et moi, j'avais déjà l'idée de partir. Moi, j'ai proposé, voilà, plutôt que de potentiellement virer quelqu'un, je dis, écoute, c'était pas prévu là tout de suite, mais je pense que je vais faire un internat, je vais postuler. Je peux partir plus tôt et je ferai du remplacement, et voilà. Et donc... je suis partie, mais j'avais pas encore trouvé mon internat. Je commençais à postuler et
d'où les remplats dans des contrées lointaines.
Voilà, tu as tout compris. Parce que en plus de vouloir faire un internat, j'avais aussi l'idée de voyager. Et pareil, injonction. Je m'étais dit en sortant de l'UNIF, je peux pas faire une pause carrière avant de démarrer ma carrière. Il faut que je travaille d'abord parce que sinon je vais jamais devenir vétérinaire, je vais perdre tout. Voilà, le truc habituel.
Habituel, on est tous là, voilà, non, c'est bien.
C'est ça, pas du tout formaté. Et il se trouve que c'était quand même bien parce que j'avais quand même gagné un peu de sous, fatalement, et ça me permettait aussi de d'allègrement faire des remplats. Et je pense que voilà, je me serais quand même pas sentie, je sais que bon, certains qu'on a interviewé toutes les deux, voilà, des plus anciennes générations avaient l'habitude d'être plongées dans les remplats en sortant de l'école.
Oui, tout à fait.
Bon, moi j'avoue, je me serais pas du tout sentie à l'aise de faire ça, et je dois dire que l'Angleterre n'aurait pas toléré ça à l'époque. Ils prenaient toujours des gens qui étaient au moins 2-3 ans diplômés. Donc finalement tout se goupillait bien. Et donc, sortant de cette clinique, je me suis bougé les fesses, j'ai trouvé des remplats en Angleterre. Je trouve un remplat, d'ailleurs, qui m'a permis de faire toute cette période de remplats, où je pouvais partir et revenir comme bon me semblait. Donc, c'était plutôt chouette. Une petite clinique familiale aussi, d'une personne près de Bristol, dans le sud-ouest. Et c'est comme ça que j'ai planifié avec mon mari de l'époque, Enfin, j'ai pas de mari aujourd'hui, mais c'était mon mari de l'époque parce qu'il n'est plus, voilà, mon ex-mari.
Il était ton mari à l'époque.
Il était mon mari. On a planifié nos voyages et on s'est dit, bah, on part. Et on part barouder, mais on va aussi en profiter pour faire du volontariat à l'étranger. Et c'est comme ça que on est parti dans l'Asie du Sud-Est. On a fait 6 semaines de volontariat à la frontière cambodgienne entre la Thaïlande et le Cambodge. Et ça, c'était assez épique. J'imagine qu'on aura des questions là-dessus. Et je suis revenue 3 mois. Enfin, on est revenu 3 mois après ça. Et puis, on est parti en Amérique du Sud. On a fait, du coup, une partie au Pérou. Et non, entre les deux, c'est à ce moment-là qu'on est parti aussi 1 mois dans les Itkout, que là, du coup, dans une clinique spécifique là-bas où on a fait 3 semaines.
Donc, c'était du volontariat vétérinaire.
C'était du volontariat vétérinaire, ouais.
Et qu'est-ce que tu faisais exactement?
De tout. Alors en Thaïlande, c'était des petits animaux, c'était chat, chien, c'était principalement de la castration des ovarios. Ils ont un gros problème de surpopulation là-bas, hein, comme souvent. Traiter des animaux de rue avec des antiparasitaires, de la bobologie, ce genre de choses. Au Pérou, c'était la même chose.
Et pourquoi tu dis que c'était épique, du coup?
C'était parce que, le soi-disant sanctuaire qui avait, voilà, décidé que, enfin, mis en ligne cette annonce, on s'est retrouvé là, c'était une nana qui s'occupait de 6 chiens qui avait décidé de monter un truc. Et elle baragunait un peu de thaïlandais et quand on est arrivé, on avait toujours pas de produits anesthésiants, donc on a dû faire des allers-retours de fou pour signer des papiers, pour avoir des licences, pour avoir des médicaments. Et il se trouve que là-bas, l'euthanasie humaine est, enfin, évidemment très controversée, mais il y a des espèces de sous de canaux souterrains d'euthanasie humaine. Et donc, évidemment, quand on commençait à commander des drogues pour les animaux, on était un peu,
un peu stressé.
Un peu stressé, un peu suspect.
D'accord.
Et puis, on s'est retrouvés avec une mobylette. Donc, on partait dans les scooters, un scooter mobylette. On partait à travers les contrées thaïlandaises avec mon mari devant et moi derrière, avec un sac de sac côté, avec une balance, nos bénocs, et on s'arrêtait dans les villages. Et les gens nous apportaient leurs chiens. C'était juste incroyable. On a essayé la sarbacane.
Une vraie aventure.
Ah oui, une vraie aventure. On a essayé la sarbacane, mais on s'est rapidement rendu compte que il y avait un délai assez long entre l'injection du produit.
C'est pas comme dans les films.
Non, c'est pas comme dans les films. Et donc on se retrouvait. Bon, on l'a fait une fois. Hein, on s'est retrouvé avec un chien qui évidemment a détalé, qui est parti dans la jungle parce que là où on était, il y avait beaucoup de jungle. Donc on l'a coursé jusqu'à ce que il s'endorme. Et on imagine bien le stress de l'animal. C'était pas du tout possible de faire quoi que ce soit. Enfin, on a dit ok, cette technique-là, ça n'a pas marché. On a fait des camps. On est parti dans des camps de maout dans la jungle où on a fait je sais plus combien de chiens à la journée. C'était juste incroyable quoi, travailler la chaîne. Évidemment, eux voulaient nous remercier, donc ils nous remerciaient avec des noix de coco et des bouteilles de rhum. Donc nous, on se faisait une soirée le jour tombé à 6 heures. Donc on se faisait nos petites soirées avec des pina coladas improvisées. Enfin voilà, tout un tas de trucs. Je pourrais en parler pendant des heures, mais voilà, c'était assez épique.
Et plein de beaux souvenirs, finalement.
Ouais, des super beaux souvenirs. Ouais, ouais. Et des souvenirs, enfin, là, j'ai parlé vraiment du côté plutôt ludique, mais sur le côté vétérinaire, ça m'a appris énormément de choses. La débrouillardise, clairement. Peut-être on n'avait pas besoin de donner tous les médicaments qu'on donne aujourd'hui. Surtout, ça m'a appris beaucoup sur l'antibiothérapie. On faisait, évidemment, énormément de castrations, d'ovarios. Et en fait, on faisait un maximum pour être propre, parce que je peux même pas dire stérile, hein, vraiment, parce que,
oui, vous faisiez ce que vous pouviez avec les moyens du bord,
exactement.
Quoi, hein.
En plus, il faisait une chaleur de fou, il y avait des mouches, et du coup, on allait très vite. Et ce que je me suis rendu compte, c'est d'aller vite et être propre, c'est 100 fois mieux que donner des doses de fou d'antibio derrière, quoi. Ça paraît simple comme ça, mais quand on débute, c'est des choses qui sont hyper importantes. Et donc peut-être que, bon, j'extrapole un petit peu, peut-être que ça m'a mis un pas finalement dans l'entrepreneuriat, parce que se débrouiller avec les moyens du bord, quoi.
Oui, d'accord. Très clair. Et comment tu reviens du coup sur cette idée d'internat beaucoup plus voilà structurée après toutes ces aventures en Thaïlande et au Pérou?
Je pense que pour ceux qui me connaissent, quand j'ai une idée en tête, je vais au bout et je démarre pas. Donc cette idée, elle était là, elle avait bel et bien germé, donc j'allais aller au bout de cette idée. Je pense que j'ai eu la place, je me rappelle plus exactement en termes de temporalité, mais j'avais trouvé un l'internat où je suis allée, un petit internat. À l'époque, c'était pas en ligne. Hein. À l'époque, c'était un magazine Vet Times, ça s'appelait, où on regardait les annonces. Et j'étais tombée sur cette petite nouvelle clinique qui n'était pas encore un hôpital à l'époque, au Pays de Galles, qui ils avaient eu leurs deux premières années d'internat, et là ils embauchaient pour la troisième. Et à l'époque, je m'étais dit, je vais aller à Lipouk, quoi. C'était
ton objectif.
Mon objectif, et puis c'était une clinique que je connaissais les gens. Enfin, c'était vraiment mon idéal, on va dire, d'internat. Mais je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Enfin, j'ai postulé et j'ai eu une réponse. Voilà, j'ai eu une réponse très très chouette de la personne. Je me rappelle, j'avais envoyé un mail en disant, voilà, je suis consciente que vous êtes un jeune hôpital, donc je ne sais pas si ce sera à hauteur de mes espérances en termes d'internat. Moi, j'ai déjà un peu d'expérience. Ils cherchaient quelqu'un qui sortait de l'école. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et il m'a envoyé une super réponse en mode, effectivement, peut-être que ce sera bloquant pour toi, mais je t'invite, on est plutôt sympa, je t'invite plutôt à venir nous voir. Et je débarque dans cette clinique et coup de cœur, en fait. Je passe une partie de la journée avec un des chirurgiens, une autre partie de la journée avec un des vétos ambulatoires. C'était deux vétos ambulatoires, en fait, qui avaient monté cette clinique. Petite, mais encore une... Je l'évoquais beaucoup, en fait, hein, ce côté familial. C'est vraiment... je pense que c'est vraiment très important pour moi, ce côté très communautaire, famille, où les gens sont bienveillants les uns envers les autres. Et je me dis, en fait, je serai pas dans une grosse clinique avec 30 chevaux, 30, 40 chevaux dans l'hôpital, mais peut-être que du coup, j'aurai la possibilité plutôt de courir partout sur ces 40 chevaux, de me concentrer sur les 10, 15 chevaux qu'on aura, mais finalement être aller plus au fond des choses. Et sans hésitation, je leur dis, si vous me prenez, moi je suis... Je suis partante. Et donc, j'ai eu le poste. Et en fait, là, ça a démarré en septembre. Donc, et je pense que ça, c'était... ça devait être février, après notre premier périple. Donc là, du coup, j'avais le temps de m'organiser et de me dire, maintenant, je profite. Je continue à faire un peu de remplats et de voyages. Et puis, quand je rentrerai...
Oui, tu savais où tu allais. Quoi. Ouais. Et ça, c'est non-diplômant en Angleterre. Ce sont des internats non-diplômants.
Ouais, tout à fait.
Ce qu'on appelle des clinicas aujourd'hui pour le distinguer de l'internat diplômant en France, quoi.
Exactement. Moi, ça me posait pas de problème parce que j'avais évidemment déjà en tête l'idée de potentiellement faire une résidence, même si j'étais pas à fond à ce moment-là. Mais je voulais, au cas où, évidemment, savoir que même avec un clinica, entre guillemets, je pouvais accéder. Et en fait, je pense que ça doit être encore le cas aujourd'hui. Mais si on a un minimum d'expérience sur le terrain, 2 ans et demi à peu près, ils acceptent que les gens postulent. Donc moi, je me disais, j'ai 2 ans et demi, j'avais 3 ans et demi d'expérience déjà en clinique, plus l'année de clinica. Je me disais, pour mon dossier, je me faisais pas trop de soucis, quoi. Mais effectivement, ceux qui sortent de leurs études et qui veulent faire une résidence aujourd'hui, soit ils peuvent faire 2 ans et demi, ou alors ils doivent faire un internat qui est diplômant.
Oui, tout à fait. Ouais. Et cette idée de la résidence, elle te vient à quel moment, de manière très précise, où tu dis vraiment, je vais y aller?
Clairement, elle me vient pendant mon internat, parce que j'ai adoré mon internat, hein, c'était vraiment incroyable. C'était super parce que comme j'avais déjà de la bouteille en clinique, en tant que praticienne, tout ce qui était on va dire acte et diagnostic, on va dire de base qu'on apprend au début, c'était bon. Donc en fait, mon temps en clinique, en internat, je l'ai passé en mode éponge. Donc je stressais pas, voilà, sonder les chevaux, passer le temps dans l'hôpital, mettre des cathés, tout ça, c'était pas un souci pour moi.
Tu avais du temps de cerveau disponible, pour faire des choses plus intéressantes en tout cas.
Exactement, ouais. Exactement. Donc je suis devenue très bonne en radio, c'était il écoutera pas de podcast parce qu'il est en anglais, mais c'était un tyran en radio, mais ça m'a appris tellement la justesse et la précision. Je me suis concentrée sur l'anesthésie que j'ai adorée. On a pu participer à pas mal de chirurgies. Voilà, j'ai pu faire de l'ambulatoire, donc c'était vraiment top. Et ce truc de être près de personnes, de travailler auprès de personnes qui savent plus que moi, je me suis dit mais en fait résidence c'est le rêve en fait parce que c'est encore un niveau au-dessus. C'est comme ça que je le voyais, hein. Bon, on en parlera après de la réalité, mais bon voilà, j'ai un côté un peu bisounours. Moi, mon objectif, c'était d'apprendre plus dans un chouette environnement, de pouvoir ensuite.
Et tu dirais que c'est une course à l'excellence ou non, c'est plutôt une soif d'apprendre?
Alors aujourd'hui, évidemment, je me pose beaucoup de questions. Hein. Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que je suis quelqu'un de déterminé, voire buté, avec un sacré caractère. Donc quand j'ai une idée en tête, en fait, je suis mon intuition vraiment quoi. Et quand j'ai une idée en tête et que je sais que c'est la bonne, j'y vais. Et après, je remets rarement quand même en question, sauf si, enfin voilà, vraiment il y a lieu de faire parce que je sais pas, les événements de la vie font que. Je pense que j'avais une vraie soif d'apprentissage. Clairement, je me lasse vite et j'ai besoin de me nourrir d'autres choses. Donc il y avait vraiment de ça. Après, je pense qu'il y a clairement une partie de je ne suis pas à la hauteur ou je ne suis pas encore assez à la hauteur.
Pour syndrome de l'imposteur.
Bah, bien sûr, pour faire mon métier correctement. Et donc ça, évidemment, ça pousse à apprendre plus, faire plus de formation. Enfin, ça, on le voit aujourd'hui énormément chez les jeunes, ce côté, il faut que je fasse plus de formation parce que je suis pas à la hauteur pour être en face du client ou peu importe. Et donc voilà, donc clairement un peu des deux.
Ok, très clair. Je rebondis sur l'histoire de l'internat que t'as fait après quelques années de pratique. Manuel Ornart, dans son épisode aussi, ça doit être 3 ou 4, je sais plus, c'est au début en tout cas, elle explique que elle, ça a été génial pour exactement les mêmes raisons que toi. Donc c'est quelque chose que peut-être à retenir. Cette résidence que tu fais à Londres, comment elle se passe?
Donc j'obtiens cette résidence, hein, je suis juste... C'est incroyable, enfin c'était un peu le Graal. J'étais super contente. Il faut savoir en plus que j'étais pas retenue la première fois.
D'accord.
Mais la personne qui a été retenue, j'étais le top 2 et la personne qui a été retenue a décliné. Donc j'ai eu le poste. On m'a dit non, tu l'as pas. Donc j'étais en mode un peu dépidée et genre une semaine après ou quelques jours après, c'était tu l'as. Donc c'était...
Et tu penses que ta double nationalité, elle a joué? Parce qu'on entend souvent que voilà, il y a très peu de Français qui sont pris au Royal College.
Oui, clairement, c'est très. Alors,
chauvin.
Je réfléchis parce que c'est pas le cas en petits animaux. En petits animaux, il y a vraiment beaucoup d'étrangers. Je saurais pas dire la proportion, hein, mais je pense que. Je serais pas étonnée que ce soit 50-50.
D'accord.
En équine, c'est vrai qu'on était tous anglais. Et oui, je pense que l'équine, il y a un côté un peu, peut-être un peu chauvin.
D'accord.
Après, on avait, mes tutrices. Enfin, il y en a une qui était australienne, l'autre qui était allemande. Hein, donc, bon.
Oui, c'est relatif.
Je sais pas. Ouais. Franchement.
Pas d'avis.
Exactement. Pas d'avis. Abstention.
Abstention.
Donc voilà, j'ai cette place et en fait je démarre et c'était l'enfer en fait dès le début, j'y repense. Mais au début c'est l'enfer parce que ce qui semble être un peu normal quoi, nouvel environnement.
Nouveaux collègues, nouvelle manière de faire.
Exactement. Charge de travail. Finalement, on passe d'un statut d'interne où on est plutôt subordonné. Et les gens nous disent quoi faire et bon, on donne un peu notre avis, mais voilà, sans plus. Ah, ça y est, on a quand même de nouveau une vraie responsabilité. un poste un peu bâtard parce qu'on a de la responsabilité, mais en même temps, il y a quand même les grands
toujours quelqu'un au-dessus,
qui donne un niveau de responsabilité dépendant de si c'est week-end de garde ou pas, ça. S'ils ont envie ou pas. Et faut savoir
si c'est bien fait ou pas.
Voilà, ou si c'est fait comme eux ou pas. Et puis, on a beaucoup de personnes, enfin, il y a beaucoup d'internistes. Hein, donc, voilà, moi, je faisais la neuro avec Richard Piercy. Il y avait deux internistes. Il y en a une qui faisait plus du poulain, l'autre qui faisait plus tout ce qui était métabolique syndrome, etc. Donc, voilà, on avait aussi beaucoup de personnes. Et puis après, bon, on commence à voir un petit peu comment ça se passe. Donc une vraie guéguerre entre le pôle chirurgie et le pôle médecin, au point de, bah, on se sert des résidents comme boulet de canon pour se venger sur les chirurgiens ou vice versa quoi. Donc on fait les rondes le matin, on présente les cas et on se fait allumer. Très clairement. Moi, j'en étais au point. Je craignais les rondes. C'était une horreur pour moi. J'avais la chiasse tous les matins. C'était juste un enfer. J'avais l'estomac noué au possible. Voilà, quand je terminais, enfin, je tremblais. Hein, je tremblais quand je disais mes cas. Je perdais tous mes moyens, quoi. Des bêtes questions. J'arrivais plus à répondre. Et j'avais un chirurgien en particulier qui était vraiment particulièrement véhément et qui s'en prenait vraiment à moi, au point où mes tutrices ont quand même dit non mais si tu veux on va lui parler. Je me dis non, en fait ça va juste empirer le truc. Enfin moi j'étais vraiment terrorisée. Hein.
Et qui prenait plaisir à faire ça, tu penses, ou...
Je pense qu'il se rendait pas compte.
Oui.
Il se rendait pas compte. Il était assez particulier. Il a depuis quitté cet environnement. Non, je pense qu'il se rendait pas compte. Mais à l'époque, j'ai fait une chute d'estime et de confiance en moi en l'espace de un mois. Et en fait, une fois qu'on arrive à ce stade-là, c'est plus possible de se défendre, en fait. Parce que ce que j'aurais dû faire, c'était me prendre position, d'aller chercher de l'aide, vraiment mettre en place quelque chose pour être soutenue. Mais j'osais pas, je me disais, bon, c'est ma faute, je suis nulle, qu'est-ce que je fous là, ce gros syndrome de l'imposteur, plus. La nana avant moi, elle avait fait un burn-out et un arrêt de 6 mois. Moi, je me suis posé la question d'arrêter, mais je me suis dit, en plus, j'ai divorcé pendant cette période-là.
Ouais. Tu cumules.
Donc je cumulais et clairement, c'était pas que la raison, mais ça en faisait partie. Et je me disais, mais si en plus ça a cassé, enfin, je vais au bout, quoi. Là, je suis tellement dedans que je vais au bout des choses.
Donc tu t'es accrochée pendant 3 ans.
Je me suis accrochée pendant 3 ans. On était un chouette groupe de résidents. C'était cool. On se soutenait quand même entre nous.
Il y a eu des moments où ça s'est un petit peu amélioré ou vraiment t'as fait 3 ans comme ça?
Alors ça s'est amélioré quand... alors déjà, l'avantage du collège de médecine interne, c'est que... Alors maintenant, ils ont un petit peu changé le système, mais on avait beaucoup de stages quand même à faire. Et beaucoup de stages, du coup, qu'on faisait en dehors du RVC. Donc ça me permettait de souffler, d'aller voir d'autres facs, d'aller voir d'autres vétos et de me rendre compte, m'extirper un peu de ça et de me rendre compte que malgré tout c'était pas la réalité, c'était une réalité et ça me permettait quand même malgré tout de m'accrocher. On était payé une misère, hein, donc j'ai fait un prêt bancaire pour pouvoir payer toute cette maltraitance. Non, mais surtout mes stages. Du coup, j'ai payé de l'argent. J'ai payé pour aller faire un stage de néonat en Australie, par exemple. Quoi. Je me suis dit, mais en fait, je m'en fous. De toute façon, à la fin, je remboursais mon prêt, mais au moins j'aurais survécu. Donc j'avais un peu ce côté survie en moi qui me faisait tenir. Donc ça, c'était des chouettes moments, quoi. C'était des moments où je rencontrais d'autres personnes, des gens... Enfin, voilà, je voyais de la bienveillance de nouveau, des gens qui aimaient leur métier, les cas qui étaient peut-être un peu mieux gérés. Voilà. Puis, bon, c'était pas toujours non plus la panacée là où j'étais. Ce que j'aimais... Alors si, il y a une chose que j'aimais au VC, c'était que on se partageait les gardes avec les chirurgiens. Donc, on était aussi garde en chirurgie. Donc, moi, j'aimais bien la chirurgie, en fait. Donc, c'était pareil. C'était aussi... ça me sortait un peu du truc de médecine interne tout le temps. Et donc, ça veut dire qu'aussi, quand on faisait nos coliques, on les suivait jusqu'au bout. Donc, moi, quand j'avais une colique la nuit, bah, j'allais en chirurgie. Et ça, c'était hyper gratifiant parce que, bah, tu voyais un peu ton diagnostic, tu voyais à quoi ça ressemblait, à l'intérieur, bah, tu lui suivais au bout, etc. Donc, ça, c'était chouette. J'aime toujours le côté transmission. Donc, j'aimais bien, je m'entendais très bien avec les internes, j'aimais bien passer du temps avec eux, j'aimais bien passer du temps avec les étudiants parce que j'avais déjà ce côté, c'est une réalité, mais c'est pas la réalité. Ça peut être différent. Et j'estimais que j'avais déjà assez d'expérience pour pouvoir encourager les jeunes à prendre une certaine direction avec plus de recul que moi j'avais eu pour certaines choses. Et voilà, les encourager sur leur voie et de peut-être pas faire exactement les mêmes choix ou les mêmes erreurs que moi j'avais pu faire. Donc oui, il y avait des choses à laquelle je me raccrochais. Après, il y avait d'autres qui étaient très compliquées. Je faisais aussi on devait faire un master aussi en même temps. Et donc je m'étais dit en fait pareil un peu pour sortir de la clinique et aussi je me dis la recherche je connais pas trop peut-être que ce serait cool de faire un projet de recherche
en plus
voilà en plus c'est très juste parce que j'avais pas du tout anticipé que travailler dans un labo que tout n'allait pas aller comme sur des roulettes même dans un labo je me revois avec mes pipettes en train de m'arracher les cheveux travailler la cytométrie de flux. Je vais pas aller dans les détails d'explication sur les lymphocytes T chez le cheval. C'était passionnant. Alors en vrai c'était intéressant, mais en fait
ça m'étonne pas.
Comme c'était un temps partagé,
c'était
complexe et c'est ça aussi, ça rajoutait une charge. C'était juste un enfer parce qu'après à la fin il faut faire une thèse.
Ah bon?
Oui, une thèse. Alors une thèse, une thèse. Oui, il faut quand même faire un travail. Enfin, c'est plus un TFE que non. Celle-là.
T'as pas besoin de
publier. Ah oui, bien sûr. J'ai des publications aussi. Ouais, j'avais oublié ce côté-là. Oui, bien sûr. Parce que aussi, il y a d'autres choses qu'il faut publier. Donc il faut une publication en tant que premier auteur, un deuxième en tant que auteur. Donc ça allait à peu près parce que j'avais trouvé des sujets pas mal. Et puis oui, parce que c'était mon idée première quand tu m'as demandé la question, ce qui avait été bien. Aussi, on était limité sur certains cas en médecine interne. Et en fait, quand on fait une résidence, on a aussi, en tout cas en médecine interne et kin, on a à peu près, je pense que c'est plus de 500 cas au total à valider. Un certain nombre en premier, on va dire premier médecin, et un certain nombre en deuxième médecin. Donc premier médecin, c'est médecin principal du cas.
En fait,
voilà, case log, exactement. Et on n'avait pas beaucoup de cas en médecine sportive, on n'avait pas trop de cas en métabolique, énormément de coliques. Et donc je m'étais arrangée, comme j'étais sur la fin et qu'il manquait beaucoup de cas, je m'étais arrangée. Et en vrai, ça m'arrangeait bien aussi de partir de là le plus possible pour aller retravailler là où j'avais fait mon internat.
D'accord.
Là tu te dis génial, ouf, t'es parti 6 mois. Non, sauf que ils m'ont pas fait de cadeau sur les gardes et d'ailleurs les résidents non plus, hein, c'est pour dire la mentalité. Donc je devais quand même retourner faire mes week-ends de garde, donc je me tapais, j'allais avec ma petite Fox au Pays de Galles 5 jours et puis je partais le vendredi midi me faire 5 heures de route pour démarrer ma garde au RVC et je repartais le lundi matin de l'autre côté. Et quand je suis revenue faire mes 2 dernières semaines, j'avais dû échanger toutes mes gardes avec les résidents, donc je me suis fait mes 2 dernières semaines de résidence, c'était 2 semaines de garde.
D'accord.
Et évidemment la journée aussi parce que sinon c'est pas drôle. Donc le jour où j'ai terminé cette résidence, je pense que c'est un des jours des plus heureux de ma vie.
Mais j'avais demandé, tu termines dans quel état et à quel moment tu passes le collège européen, parce que du coup tu finis bordée quand même de cette histoire.
Ouais. Alors ça encore sacrée histoire. Je finis épuisée. Hein, alors j'ai
en burn-out ou
le burn-out s'est fait un peu à une étape ultérieure. Épuisée. J'ai eu, évidemment, à un moment donné, je pesais 45 kilos tout mouillé, je buvais du coca pour déjeuner, enfin voilà, l'horreur, un truc. Donc j'étais un peu une loque humaine. Mais c'est incroyable, hein, ce que le corps arrive à endurer finalement, à tenir. Parce que moi, évidemment, au moment où je divorçais, il me disait, ressaisis-toi, hein, c'est bon. Hein, ça va. Beaucoup d'empathie. Je pleurais dans les toilettes. Mmh. Enfin, c'était bref. Donc, je termine épuisée, mais heureuse d'avoir terminé. Donc, je pense que ça me porte. Mmh. Ça me porte vraiment ce truc.
barre, c'est fini.
Et c'est fini, quoi. Donc ça, ça me redonne de l'énergie. D'autant plus que je m'étais dit sur la dernière période, en fait, malgré le fait que je te dis c'était une réalité, en fait, c'était devenu la réalité pour moi. Mmh. Et je me suis dit, mais en fait, là, je peux plus rester dans le monde vétérinaire. C'était vraiment... J'étouffais, en fait. Je me disais, mais en fait, ça va me tuer, quoi. Et ce côté instinct de survie, je me suis dit... Ben, faut que je me sorte de là, il faut que je fasse une pause. Et j'avais rencontré des personnes de chez Audevard, d'ailleurs, à une BIVA, qui est l'équivalent de la VEF anglais. Et j'étais restée en contact et je m'étais dit, ben, en fait, pourquoi pas un peu de labo, en fait. Ça me fera peut-être sortir la tête du guidon. Et pourtant j'étais vraiment une passionnée hein, de la pratique. Hein. J'adorais mon métier de praticien, j'adorais être près des gens, des animaux. Bon, hormis la partie euthanasie qui était relativement difficile pour moi et pour en parler ou pas, mais voilà, c'est une petite parenthèse. J'adorais vraiment mon métier de praticien et jamais on m'aurait dit au début de ma carrière
que t'allais quitter le secteur libéral pour le secteur privé.
Exactement, jamais, c'est pas possible, jamais de la vie. Mais je me suis dit à ce moment-là, ben go, on verra. Enfin, c'était vraiment du survie en fait. Je me projetais pas à un an, deux ans. Je me dis, le monde vétérinaire, j'en peux plus. Il faut que j'en sorte.
Oui, d'accord.
Voilà. Et du coup, j'ai envoyé mon CV. Bon, clairement, hein, mon CV, j'ai encore en tête ta question sur le board. J'ai pas oublié ça. Je reviendrai dessus.
Pas de problème.
En fait, j'envoie mon CV. Évidemment, mon CV était hyper intéressant parce que j'avais de la pratique, j'avais de la spécialisation, j'avais évidemment accès à énormément de ce qu'on appelle KOL, donc des leaders d'opinion. Donc pour un labo vétérinaire équin qui est en train de se développer à l'export, en plus j'avais la casquette internationale. Donc ils se sont dit banco, merci, c'est quoi cet envoi du ciel? Et de mon côté, super bon feeling quoi. Encore une fois, j'ai eu Marina Vissink.
Moi aussi, j'étais en entretien avec elle et elle donne envie d'aller travailler chez Audevard.
Clairement, elle est absolument passionnée par son... Enfin, elle était passionnée, elle est toujours. Maintenant, la boîte a vraiment bien avancé depuis le jour où j'ai mis les pieds. Mais ça fit quoi. Ça fit et donc... je vais à Paris, je me rappelle, je suis allée à Paris, je pense que j'étais encore en résidence pour faire un entretien. Je me rappelle, c'était mes 30 ans, parce que c'était aussi les 70 ans et les 80 ans de mes parents. Donc, on s'est fait un combiné voyage à Paris. Et moi, évidemment, j'étais encore en résidence, donc on s'est pris un hôtel. C'était juste, je crois que j'ai dormi hein, pendant 3 jours, hein, mis à part aller pour l'entretien. Et je suis allée dans cette boîte des gens sympas avec un boulot. Je me dis, je crois que ça y est, ça devrait le faire, quoi. Elle m'avait fait faire un petit exercice de mise en avant d'un produit. Moi, ça me parlait vachement par rapport au cas que j'avais fait. Donc, je me suis allez, banco, quoi. Et eux, ils avaient l'air d'accrocher aussi. Donc c'était bon. Et je commençais ça... en sortant, quoi. C'était, je sais plus, je pense que, comme d'habitude, hein, j'avais pas dû prendre beaucoup de congés en sortant de ma résidence. Je crois que je l'avais commencé direct. Et donc, je suis arrivée, et je m'étais toujours dit, ça c'est drôle, je m'étais toujours dit, pendant ma carrière, j'aimerais bien un jour vivre dans une grande ville. Et évidemment, je m'étais toujours dit, non, mais en tant que praticienne équine,
c'est un peu compliqué.
Jamais. Comme quoi, quand on a une idée, la glane est plantée, elle attend juste à être arrosée au bon moment. Et donc, j'arrive à Paris. Je reviens sur l'histoire du board. Donc j'avais je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, je pense, mais en fait, il le scinde en deux, le board de médecine interne, il y a la partie qui s'appelle générale et la partie qui s'appelle certifying. La partie générale, c'est beaucoup de physio, beaucoup de médecine, on va dire générale. Et puis le certifying, c'est vraiment les cas cliniques complexes avec un oral, avec de la défense d'oral, etc. Et donc j'avais validé le général la deuxième fois, hein, je précise, je l'avais pas validé la première fois. Et il me restait le certifying à faire. Et je me suis dit en prenant le boulot chez Audevard, je me suis dit, en fait, et c'était toujours en janvier. Donc je terminais ma résidence en juin. Et donc si je le passais là, c'était en janvier. Et là, pour une fois, ça m'arrive pas souvent dans ma vie, mais pour une fois, j'ai eu, je me suis dit, Je vais non, je peux pas. Là, je c'est pas possible en fait. Là, je suis épuisée. Je prends un nouveau taf. J'ai plus envie de ouais. voir d'être confrontée à ce monde.
T'as choisi quoi. En fait.
Exactement. J'ai vraiment choisi et ça m'a fait un bien fou. Et je pense que c'est pour ça. On verra parce que après je pense que je fais un burn-out, mais c'est un burn-out différé en fait hein. J'arrive chez Audevard et c'est vraiment le jour et la nuit en fait du monde que j'ai connu vétérinaire où il y avait zéro bienveillance, les gens se tiraient dans les pattes, voilà, je vais pas revenir dessus. Là j'arrive, les gens sont super gentils avec moi, ils estiment qui je suis quoi en fait en tant que personne, en tant que vétérinaire, je sais des choses et ils sont contents d'avoir quelqu'un avec eux qui sait des choses. Personne essaye d'en savoir, de montrer qu'ils en savent plus que l'autre.
Je suis plus rabaissée en fait,
voilà, exactement. Je mange le midi. Je crois que j'ai pris 4 kilos en un mois. Genre,
juste... C'est bien ça. Hein. Juste... J'ai mangé le midi.
Et on fait une pause. On fait une pause le midi. Enfin, je fais des heures descentes. J'ai plus de garde. Je revis en fait. Vraiment, je revis. Et ça a été salvateur pour moi à ce moment-là, quoi. Je pense que, j'aurais pas pu retourner en clinique à ce moment-là. Et si je l'avais fait, je me serais complètement cramée. Ça, c'est une certitude. Je ne passe pas le board à ce moment-là. Je ne le passe pas non plus l'année d'après, parce que l'année d'après, je vais en Mongolie et je fais une course à travers la Mongolie. Hein, je pense que c'est dans l'interview qu'on avait faite par écrit toutes les deux. Mmh. Et là, en rentrant, 2 semaines plus tard, je fais une méningite. Et quand je parle de burn-out différé, je pense que mon corps n'en pouvait plus en fait. J'étais épuisée, j'avais tenu le coup après la résidence, j'avais pris un boulot que malgré tout, je me donnais à 200%, j'adorais le taf que je faisais chez Audevard, jusqu'au bout j'ai adoré mon travail chez eux, et donc je me donnais beaucoup, j'avais 50% de déplacement donc à travers toute l'Europe, donc je bougeais énormément. Je m'entraînais en plus beaucoup sportivement pour cette fameuse course et en fait j'ai terminé la course, j'ai fait une petite gastro herpès virus, j'étais tombée aussi, donc ma barrière méningée était
le système immunitaire dans les chaussettes quoi.
Voilà, système immunitaire dans les chaussettes, méningite et dans la foulée réactivation de mono parce que c'est herpès virus et donc je me retrouve et en fait mon corps ne veut plus, moi je veux revenir au boulot, je me rappelle et Marina. Mon corps dit stop. Marina était incroyable. À un moment donné, elle m'a dit, mais juste, tu restes chez toi, tu ne reviens plus. Parce que chaque fois que je revenais, à bout de 2 heures, je bégayais, mon cerveau ne fonctionnait plus, quoi. Et j'étais épuisée. Enfin, au-delà, après, je suis passée outre la partie méningite, hein, parce que ça s'est céphalé, je ne souhaite à personne. C'était un cauchemar. Au final, je suis arrêtée 3 mois en essayant de revenir à maintes reprises, et ça me prend 1 an en vrai pour me remettre pleinement. Je retourne au boulot au bout de 3 mois parce que j'ai envie de retourner au boulot parce que voilà, je kiffais mon taf et ça me manquait. Je pense que vraiment c'était une méningite, mais c'était mon corps qui disait en fait c'est moi qui vais t'arrêter quoi. Donc bon, je me remets de ma méningite, de ma réactivation de mono, je reprends le boulot et là je me dis bon, ce serait quand même temps que je passe ce board. je me dis en fait là si je veux passer le board, je me donne qu'une chance en fait. Je me donne qu'une chance pour le passer et je me la donne et par contre je m'y mets à fond. Je me dis ça va être 6 mois quoi, ça va être 6 mois, donc je crois que je me remets de ma méningite, ça devait être février-mars, là je reprends le boulot, donc je me dis en août faut que je commence à me mettre à étudier sérieusement quoi. Et donc je me mets à étudier sérieusement au mois d'août, c'est-à-dire que j'arrête toutes les sorties. Je rentre du boulot à 18h pétante, je me mets une vraie rigueur, je rentre, je me fais mes petits 2 carrés de chocolat et j'étudie tous les soirs jusqu'à 22h. Et je fais ça non-stop et je me prends 2 semaines avant le board pour bosser à fond. Et évidemment tous mes week-ends, je passe à faire ça. Et je le réussis. mais
ça m'étonne pas.
je crois que quand je termine ça, je me dis non mais enfin plus jamais je fais un c'est atroce, hein. C'est quand même
je me doute
très
qu'il a fallu une volonté quand même de faire pendant 6 mois. Quoi.
Ouais. Bah surtout que ça faisait 3 ans du coup que je pratiquais
bien
plus
sûr,
quoi. Hein.
Bien
je
sûr,
pratiquais plus. Après bon, il y a quand même beaucoup de choses qui restent, mais c'était vraiment se replonger dans les bouquins et bah c'est quand même ça reste beaucoup de par cœur, même si on a vu beaucoup de cas, bah voilà, faut connaître tout sur le bout des doigts, hein. Donc c'est.
Et je pense que c'est à ce moment-là à peu près qu'on se rencontre pour la première fois. Tu ne te rappelles pas, mais moi je m'en rappelle. On est tombé à côté au restaurant à une soirée CVE à Lille, je me souviens. Et tu m'as raconté rapidement, mais en quelques phrases tout ça, parce qu'on était juste voisines de table. Et effectivement, dans ma tête, je me suis dit donc en fait la fille a fait une résidence, elle est bordée et en fait elle travaille chez Audevar. Mais what? En fait, là, c'est très clair quand tu l'expliques, mais c'est vrai que t'as un parcours qui est pas tout à fait conventionnel. Et ça s'arrête pas là parce que t'es chez Audevar quand tu décides d'ajouter un autre diplôme à tous tes diplômes. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi?
Oui, donc et ça se passe. En fait, ça se passe à cheval sur le moment où je suis en train d'étudier pour mon board, parce que en fait. À l'époque, Audevar achète le Tildren, et donc il crée un poste qui est un poste de chef de gamme Tildren, qui est pris à l'époque par Cécile Gauchard, qui est devenue une très bonne amie à moi. Et en fait, on travaille énormément en binôme, et enfin très 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 bien en binôme. Et moi, je suis vétotechnique, hein, à l'époque, et elle chef de gamme. Et enfin, on bosse sur ce produit à fond, on s'éclate, on va sur des confs, on redore l'image de ce produit. On commence à redorer l'image de ce produit ensemble. Et en fait, elle décide, comme quoi c'est une tendance, hein, chez les vétos, hein. Elle décide que elle veut plus faire de labo.
Elle est prof maintenant.
Donc elle décide de passer la grègue. Elle me dit avant même de le dire à Audevar, bien sûr, hein, parce qu'on était copines, que bah elle pense à ce changement, ce virement de situation. Et donc moi je me dis non mais en fait ce poste je l'adore, en fait moi ce poste il est écrit pour moi, moi je veux reprendre son poste. Et donc je me dis faut que je me dépêche, enfin en fait on va se faire un peu l'annonce synchro, donc elle dit qu'elle part et moi faut que j'annonce à mon boss de l'époque que je veux pas rester sur l'export et je veux partir sur chef de gamme, quoi. Mais en fait en même temps je me dis la raison pour ça aussi c'est que on a parlé de le fait de se lasser un petit peu, je me lasse un petit peu de on va dire mes postes. Quand j'ai plus autant de choses à me mettre sous la dent, j'arrivais un petit peu à ce stade-là, en fait. Hein, ça, de travailler avec elle en binôme, ça m'avait vachement renourri et donné plus d'envergure à mon poste. Mais là, du coup, je me disais, en fait, si je fais pas autre chose, là, ça commence à être le moment où peut-être je vais réfléchir à autre chose, quoi. Chez Audevar ou ailleurs. Et il y avait pas 36 possibilités, en vrai, hein, chez Audevar, parce que ça reste maintenant un beaucoup plus gros labo, mais à l'époque, c'était pas non plus un énorme labo. Et donc, mais je me dis, je suis quand même que vétérinaire. Hein.
On va rigoler un peu là.
Ouais. Je me dis, j'ai fait mes études de vétérinaire, certes, j'ai fait spécialiste, j'ai un petit peu d'expérience.
Un petit bac plus 11. Du coup, il faudrait peut-être faire un petit MBA en plus.
Voilà, et je me dis, je le vois pas comme un quelque chose de certifiant. À l'époque, je le vois. J'avais une copine qu'on avait fait un, mais pas du tout veto. Et en fait, déjà, je voyais à quel point elle était nourrie. Je me dis, ça. Je connaissais pas. Moi, école de commerce et tout en Angleterre, c'est pas du tout comme en France. Hein. Donc, moi, je découvre un peu ce monde-là. Et je me dis, oh là là. Moi, j'aime bien comprendre les choses. Hein. Ceux qui me connaissent, qui écoutent ce podcast, vont certainement rigoler parce que parfois c'est un peu chiant. Il faut toujours que j'aille au bout des choses, faut que je comprenne tout. Parfois, faut que je lâche un peu prise. Mais j'avais l'impression qu'il y a des choses du monde de l'entreprise qui m'échappaient, quoi. Comme j'étais veto, j'avais formation de veto, j'avais pas ce côté, cette vision un peu 360 que j'aime bien avoir, pour comprendre les tenants et les aboutissants du monde de l'entreprise. C'est-à-dire, avoir un peu de notion de, c'est con, mais de supply chain, des notions un peu plus poussées de finance. Le marketing, j'avais déjà fait une formation en plus, mais c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, donc je me disais je pourrais pousser plus là-dedans. Et en fait, quand je découvre le monde des MBA, je me dis waouh, c'est exactement ça qu'il me faut, quoi. Et en plus, c'est une formation en même temps qu'on est dans en poste. Puis je me dis, bah en fait, changement de poste, justement, je vais avoir besoin de plus de notions de finance et de marketing. Donc, enfin, pour moi, ça me semblait parfait. Et puis, bah je pense que aussi, j'avais ce truc de, bah je vais passer mon board, mais ça va être un peu la retombée. Qu'est-ce qui va se passer après? Bon, encore une fois, Marina était très raisonnable. Elle savait bien me cadrer. Elle me dit, OK, Sophie, on te paye ton MBA, on te paye une partie de ton MBA, on peut pas tout payer. Mais par contre, tu commences en septembre, tu commences pas direct, parce que moi j'étais partie pour passer mon board en janvier et commencer mon MBA en février. Elle m'a dit
normal.
Elle a été très diplomate, je me rappelle. Elle m'a dit bon, tu fais ce que tu veux, je ne t'impose pas, mais je préférerais que. Là, je suis bon. Ok, ouais, peut-être raison. Et donc, par contre, je prenais et aussi elle me disait, c'est aussi pour l'entreprise, Sophie, parce que tu vas prendre un nouveau poste. Ce serait bien quand même que tu sois, même si tu connais le poste, tu sois à l'aise dans le poste et puis que tu fasses l'MBA.
Donc, la sagesse.
La sagesse, voilà, la sagesse. Et donc voilà comment se fait mon envie de faire ce MBA.
J'ai une question qui me vient, ce besoin d'ajouter des diplômes. J'imagine qu'on a dû te poser pas mal la question et t'as l'air d'avoir quand même pas mal fait ton introspection là-dessus. Mais est-ce que voilà, il y a des gens qui t'ont pu te faire des réflexions en te disant, tu cherches quoi? Est-ce que c'est une fuite en avant? Est-ce que c'est pour te rassurer? Enfin, est-ce que c'est des choses que t'as eu beaucoup?
Oui, beaucoup, et je les ai balayés hein, assez facilement. Je pense à l'époque, ça méritait. Surtout que j'avais l'impression que je les avais plus facilement du fait que j'étais une femme, qu'un homme qui va faire un MBA ou qui va faire un board. Je pense pas qu'on lui poserait la question de c'est une fuite vers l'avant. Hein. Je pense c'est bien. Mmh. Tu poursuis ta carrière. Tu nourris ta carrière. Enfin, peu importe. Forcément, moi, je suis une femme célibataire, sans enfant. J'ai forcément quelque chose à combler, quoi.
Ouais, forcément.
Alors, je pense que j'avais probablement quelque chose à combler. Hein, ça, c'est probablement une vérité. Et comme on l'a dit avant, oui, il y a une partie pas fuite vers l'avant, mais une partie faire. Toujours dans le faire. D'ailleurs, j'en parle hein, dans Emilia sur mon Instagram. On a ce côté aussi, je pense en tant que veto et probablement ma personnalité aussi, de toujours être dans le faire les choses quoi. Et faire les choses, ça veut dire apprendre plus, avancer. Enfin, un peu le côté toujours plus. Ce truc-là, c'est en réflexion perpétuelle chez moi parce que. Il y a eu une étape où je me disais, les gens qui me disaient ça, c'était des cons, clairement, qu'il y avait un côté genré, ça c'est sûr, mais qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus de recul sur cette vision-là que les gens avaient de moi, et peut-être que j'ai un peu plus d'humilité de me dire, il y a peut-être un fond de vrai quand même, quoi. Il y avait cette soif de l'apprentissage, et l'envie de, d'apprendre des choses et les partager, voilà, ça c'est quelque chose qui est très fort chez moi. Mais il y avait un côté de pour que je sois au top du top, faut que je fasse plus, toujours plus, toujours plus quoi. Et ça c'est quand même une fuite un peu vers l'avant quoi.
OK, très clair. Du coup, ce MBA, si on revient sur ce MBA, tu m'as dit la dernière fois là quand on a fait cette même interview que c'était une des meilleures formations de ta vie, à la fois sur les compétences dures que sur le côté humain. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus?
Ouais, c'était génial, mon MBA. C'était incroyable. Pour ceux qui ne savent pas trop comment ça se passe un MBA. Donc moi c'était sur 18 mois. On est petit groupe. Encore aujourd'hui, hein, c'est 75% d'hommes et 25% de femmes. C'est plutôt des gens qui ont plus de la quarantaine. J'étais une des plus jeunes et d'ailleurs j'ai failli pas y être prise parce qu'ils considèrent que j'étais dans la marge un peu trop jeune. L'idée étant que c'est des gens qui sont en poste, qui ont déjà un peu de bouteille, de sagesse, de matière et qui se posent la question de la suite de leur carrière, possiblement accéder à des comités de direction ou monter des boîtes, ce genre de choses. Petit groupe, donc nous on était 35 je pense sur la promo. Et donc on a des cours, on va dire institutionnels hein, sur la finance, le marketing, le supply chain, tout ce que j'ai cité avant, de la compta, tout un tas de choses. Et on a surtout ce qui est finalement le plus nourrissant, c'est qu'on a des travaux de groupe. Et en fait, sur tous les 6 mois, on change de groupe. Et donc, on a un groupe avec les autres personnes du MBA. Et ça fonctionne un peu comme une mini-entreprise, en fait. Donc, on a tous et toute notre bagage, on l'apporte au groupe. Et on a, dans chacun des cours, à chaque fois, des présentations, des travaux à faire. Je donne un exemple. On avait un cours de stratégie et on a fait la stratégie de Elon Musk, par exemple.
D'accord.
Et ça, c'était... génial sur un plan humain. Vraiment, ça m'a appris à travailler vraiment avec d'autres personnes avec qui avaient des compétences différentes, qui avaient des caractères différents ou similaires. Parfois, les deux peuvent être problématiques. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui manque aujourd'hui ou qui m'avait manqué, moi, en tout cas, dans le milieu veto et en tout cas dans ma formation de veto, quoi, de pas apprendre finalement à travailler en équipe parce qu'en fait, ça s'apprend. En fait, c'est ça que je me suis rendu compte. Je me suis dit, en fait, ça s'apprend de travailler en équipe. Et quand ça marche bien, c'est explosif, en fait. C'est incroyable parce qu'une équipe de 4 ou 5 peut produire en très peu de temps sous pression... Voilà, je pense que tu le sais bien. Donc cette partie-là était vraiment super, hyper porteur. Il y avait un vrai rythme. Évidemment, je travaillais aussi. Donc je sais plus. Je pense que c'était 4 jours par mois. Et puis entre temps, les travaux, on se retrouvait sur Paris ou pas. Et on avait 2 voyages aussi. On est parti à Seattle et on est parti à Séoul. Donc c'est des business trips. Et là, on est exposé à des entreprises de là-bas. Pareil, on est accueilli dans les entreprises. Seattle, évidemment, c'était Amazon. On rencontre des personnes qui nous expliquent un peu comment ça marche, on peut poser des questions, on a un travail de compte rendu à rendre derrière. Enfin, c'est hyper porteur et moi ça m'a vraiment ouvert l'esprit, quoi. Je pense que à la base je suis quelqu'un d'ouvert, mais ça m'a ouvert sur un monde que je ne connaissais pas, sur des métiers que je ne connaissais pas, sur une façon d'appréhender les gens, le travail de l'équipe, mais aussi une façon de m'appréhender moi. Il y a beaucoup de travail sur les soft skills, ce qu'on appelle soft skills, donc compétences douces. Moi, j'aime pas trop ce terme, compétences douces. D'ailleurs, je trouve que ça devrait être compétences fondamentales parce que c'est comment manager des équipes, apprendre à se connaître pour mieux manager des équipes. On est suivi par des coachs de groupe, on fait des travaux groupe, on est suivi par un coach individuel de carrière. C'est génial, quoi. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est vraiment un diplôme. Et en fait, le diplôme, on s'en fout. Enfin, vraiment, le diplôme, on a nos points. C'est vraiment la formation qui est top. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils limitent aux gens de moins de 40 ans généralement. Et d'ailleurs, ça s'est vu parce qu'en fait, avec le Covid, ils se sont galérés. En fait, les subventions ont changé et le Covid a évidemment freiné les entreprises à laisser leurs personnes partir faire des formations. Ils se sont retrouvés du coup à accepter des gens plus jeunes. Et en fait, ils se sont retrouvés avec des gens qui sont encore très formatés académiques et qui ont l'impression qu'il faut juste qu'ils étudient et qu'ils valident leurs points. Et en fait, un MBA, c'est pas ça. Un MBA, c'est tout ce que je viens d'évoquer, en fait, les points. En tout cas, en tant que veto, on sait tous étudier et valider des tests. Ce qui est incroyable, c'est le temps qu'on passe avec les gens et tout ce que j'ai évoqué auparavant.
Ok. Et c'est cette expérience-là qui te donne envie de monter ta boîte après et qui développe ta fibre entrepreneuriale, puisque tu quittes Audevar en 2020. Et c'est à ce moment-là que tu crées Simaivet.
Exactement. Encore une fois, je remercierai jamais Audevar pour toutes ces opportunités parce que vraiment c'est grâce à eux que j'ai pu faire ça. Assez rapidement, on avait un travail, une espèce de TFE en MBA à faire, et j'ai toujours été très fan du digital je m'étais quand même réconciliée avec le monde veto pendant mon temps chez Audevar et j'avais ce truc en moi, cette flamme en moi qui me disait non mais ce que t'as vécu c'est pas normal, ce que certains veto vivent c'est pas normal, si toi tu te mobilises pas, personne le fera, il faut faire bouger les choses, quoi, et c'est certain qu'on peut faire bouger les choses. Et donc les deux se chevauchaient. En fait, j'avais ce truc de donc bien un peu bien-être au travail, mais il y avait aussi ce côté voilà digital des télémédecines à laquelle je m'intéressais en me disant voilà ce côté temps argent qui est tellement voilà difficile et en même temps précieux. Je suis sûre qu'il y a des choses à faire là-dessus. Et donc c'est comme ça que voilà l'idée de développer une plateforme de télémédecine, mais vraiment du côté veto, hein. Moi, je m'intéressais, je voulais pas faire du B2C, ce qu'on appelle du B2C, donc pour le propriétaire, je voulais vraiment un outil qui serve au veto. Voilà, je voyais des choses, il y avait un acteur principal sur le marché à l'époque, je trouvais ça très compliqué, c'était clairement un truc qui était... on avait donné une recette à des développeurs, mais on s'était pas trop rapproché du terrain, je me disais, ah, c'est quand même dommage, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de plus simple. Et en fait, du coup, en me disant tout ça, je me dis, mais en fait, je vais peut-être pas juste le faire en TFE, en fait, je vais peut-être vraiment le faire. Et j'ai une top tutrice, et je me suis éclatée. Très rapidement, j'en ai parlé à Audouard, du coup, parce qu'il allait devoir me remplacer. Ils ont été super, ils ont accepté de me mettre en rupture pour que je puisse, développer ce projet, en étant au chômage. Et donc voilà, c'est comme ça que les ébauches, en tout cas, de See My Vet, sont nées. Et puis après, je commence vraiment à mettre la main dans le cambouis sur la fin de mon MBA. Je présente un TFE quand même assez abouti avec déjà des essais. J'avais déjà fait un MVP, j'avais déjà fait des tests clients, etc. Et puis là, c'était un peu le nerf de la guerre, c'était de me dire faut que je me trouve un développeur, quoi.
Et donc finalement, comment ça se passe ces deux années? Parce qu'au début, c'est de la télémédecine. Et puis après, vous pivotez. Est-ce que tu peux raconter un petit peu?
Ouais, donc on sort. Je quitte Audouard en février. Vous savez tous ce qui se passe en mars. Hein.
Voilà. Ah bon? Donc c'est quoi, déjà?
Voilà. Donc je quitte Audouard en février pour démarrer See My Vet et le Covid arrive. Et entre temps, j'avais eu la chance quand même de potentiellement trouver mon développeur. Je sais pas si ça existe encore d'ailleurs. Il y avait une appli à l'époque qui faisait une espèce de d'appli de rencontre, mais pour
porteurs de projets, développeurs.
Exactement, c'était exactement ça. En fait, tu mettais qui t'étais toi et ce que tu cherchais. Voilà. Mais par contre, non, ils faisaient des rencontres réelles.
Ah, c'est mieux que swiper.
C'est mieux que swiper. Alors, je me suis retrouvée quand même dans un café miteux dans une espèce de troquet miteux de Paris pour ce truc. Et ils avaient mis les gens dans le fond. Alors bon, encore une fois, hein, évidemment seule nana, j'arrive. Bon, pas beaucoup de nanas porteuses de projets, plus développeurs, c'est souvent des hommes. Donc moi, je me retrouve arrivée dans ce truc. Et puis bon, développeurs, faut le savoir, c'est quand même une race particulière. Hein. C'est pas forcément les gens les plus sociables, les gens les plus faciles avec lesquels dialoguer.
Je ne dirai rien. Donc voilà. On est en plein lancement des thèmes avec Job. Je m'abstiendrai de tout commentaire. Nos éditeurs comprendront.
Donc j'arrive et donc bon, soirée se passe et puis finalement Romain arrive. Je vois passer le pas de la porte et puis il voit tout le monde assis et moi j'étais rentrée en me disant mais tout le monde est assis, mais comment tu fais pour passer de personne en personne quand les gens sont assis, quoi? C'est hyper compliqué de t'asseoir. Tu dis, bon, salut, je me cache, je vais parler avec quelqu'un d'autre. Et je vois que lui, il arrive et il a le même problématique que moi, quoi. Il arrive en mode, mais c'est trop bizarre leur truc. Je lui fais signe. Et c'est comme ça qu'on commence à discuter et on se lie d'amitié rapidement. Lui, il était sur un autre projet, donc, enfin, il pouvait pas se lancer avec moi, mais il adorait l'idée. Et en fait, il me dit, écoute, moi, j'ai deux semaines à tuer. Là, si tu veux, je te fais un MVP. Un MVP, c'est un Mean Viable Product. Donc, c'est un produit le plus basique de basique, pour pouvoir le tester auprès des utilisateurs potentiels, quoi. Donc, dans mon cas, c'était un bout d'appli pour que je puisse le mettre dans les mains de vétérinaires ou de propriétaires et qu'ils me disent, ça a l'air pas mal, ça c'est bien, ça c'est pas bien, pour pouvoir ensuite engager une vraie dynamique de production de produits, quoi. C'est clair?
Très clair.
Et donc, heureusement, j'avais rencontré, parce qu'après, bon, lui, il me dit, si tu veux, je bosse un peu avec toi pendant deux semaines, c'est cool. Donc, le mec, il me fait mon petit truc gratuit, enfin, vraiment sympa. Et, Covid arrive. Mais, du coup, ça me permet de me dire, je me concentre à fond là-dessus, et puis, aller à Jacques Taest, on verra bien ce qui arrive. Et je reste en contact avec Romain. Et là, du coup, j'étais contente du Covid, parce que ça a fait péricliter son projet, parce que lui, il devait être tech head tech, dans une boîte de food. Donc bon, bah autant dire que voilà, tout ce qui était restauration pendant le Covid, c'était pas trop ça. Donc eux, ils ont pas leur financement, ils ont pas pu Romain. Romain m'a dit, bah si tu veux, je suis dispo, on s'associe et puis bah y a là. Et bon, au début, bah on fait ce qu'on peut. Enfin voilà, moi je, lui il commençait du coup à travailler un peu le truc. Moi je fais mes MVP, enfin mon MVP, mes tests avec mes potentiels utilisateurs, je commence à travailler sur le marketing, etc. Et c'est à ce moment-là que je commence à faire des podcasts, parce que au début, j'avais pas, avant même que Romain se joigne à l'équipe, je disais bon, je fais mes tests, mais comment je peux faire aussi, parce que ce côté bien-être, etc. Je me dis bon, comment je fais pour un peu, enfin partager sur ce qui se passe sur la profession. Et à ce moment-là, au début, je commence pas tout de suite sur le partage de la profession, je commence sur le partage de tout ce qui est digital, parce qu'il y avait beaucoup de choses digitales à l'époque qui commençaient à pointer le bout de leur nez. Et moi, j'adorais les podcasts, je me dis mais en fait allez, vas-y, je commence des podcasts. Je savais absolument pas comment faire un podcast, je me suis dit bon, ça doit pas être si compliqué. et voilà, et je me prends au jeu du podcast et je fais ça, enfin voilà.
Donc ça, c'est le podcast KPI.
Ça, c'est le podcast KPI. Voilà, premier. Le tout premier podcast.
Avec ton micro, c'est ton troisième.
Exactement, exactement. Et donc, voilà, ça, je me fais la main là-dessus. On commence à avancer avec Cinéma et Vette. Puis, Séverine, avec qui j'ai travaillé chez Audevar, qui ensuite était partie chez Axience, qui était, je la débauche, clairement.
À chaque fois.
Voilà. Elle commençait à travailler au thé un petit peu avec nous. Au début, elle était super intéressée par le projet. Et grâce à son chéri, d'ailleurs, qui me dit, ah, tu sais, Séverine, je pense qu'elle aimerait quand même bien que tu parles plus concrètement de l'embarquer avec toi. Et puis, voilà, donc c'était deux personnes pas du tout veto, hein. C'est vrai, une expertise marketing pure et évidemment mon dev. Et on se retrouve à trois à commencer sur Cinéma et Vette. Et puis on se retrouve, on pitch pour rentrer à l'incubateur de
Station F.
Et voilà, et on se retrouve là-bas, et on doit faire quand même avec les aléas du Covid, évidemment, qui nous font quand même un sacré bâton dans les roues, sans parler évidemment de la situation ordinale qui complexifie un petit peu la situation de la télémédecine.
Bien sûr.
Et en fait, tout ça, du coup, comme ça complexifie cette partie, tu vois, j'ai pas perdu ta question.
J'ai aucun doute que t'as pas perdu ma question.
Comme ça complexifie toute cette partie télémédecine, on n'a pas complètement itéré, hein, on a gardé cette partie-là sur laquelle on a vraiment continué à travailler, mais avec les enjeux que je viens de décrire, donc lenteur, Covid qui fait que les vétérinaires sont déjà, soyons clairs, pas dispo sur le côté techno. La télémédecine, ils savent pas trop, il y en a qui sont motivés, il y en a pas, ça reste compliqué, ça encore plus compliqué de mettre en place quelque chose dans une situation de Covid où on a moins de staff, plus de gens et même à la suite plus d'animaux. Le contexte il est pas foufou, mais bon, on démarre pas. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je bifurque aussi sur l'équine, parce qu'au début, je m'intéresse aux petits animaux et à l'équine. Et en fait, je me rends compte, finalement, en passant du temps avec les deux, qu'il y a un besoin, il y a un besoin plus avéré chez l'équine, et il y a une ouverture des vétérinaires équins, beaucoup plus grosse ouverture. Évidemment, ils sont sur la route et en plus de ça, ils font beaucoup beaucoup de conseils. Donc évidemment, ce côté
gratuit au téléphone, le dimanche lors des concours.
Voilà, exactement, exactement. Donc ça, clairement, ça leur parle plus. Donc voilà, on itère là-dessus, on continue. Voilà, ça c'est un peu la barque, une des barques, et l'autre barque. Nous, on commence à travailler vraiment sur le côté marketing de See My Vet. Et en fait, on a pris, et ça c'est grâce, clairement, hein, grâce à mon MBA, une chose sur laquelle j'insiste beaucoup sur le monde de l'entreprise, c'est le côté mission, vision, valeur, quoi. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, et d'ailleurs sur lequel j'ai adoré travailler pendant que j'étais en MBA, parce que c'est hyper intéressant, hein, d'aller voir les entreprises, quelles sont leurs missions, et de voir un peu les alignements ou pas. Et du coup, on s'est posé en disant, il faut qu'on se pose sur See My Vet, c'est quoi See My Vet, c'est quoi l'essence de See My Vet. Et du coup, l'essence de See My Vet, c'est devenu la mission est devenue améliorer le quotidien des vétérinaires, quoi. Et du coup, l'amélioration du quotidien des vétérinaires, c'est pas que une appli, quoi. L'appli, évidemment, c'est côté temps argent, mais c'est plein d'autres choses. Et du coup, cette graine là qui germait sur mon côté un peu bâton de pèlerin de dire non mais j'étais traitée comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah celui-là tout d'un coup, il a repointé son nez et on a commencé à dire mais qu'est-ce qu'on peut enfin quelle voix on peut porter là-dessus quoi. Et c'est là qu'est né, on a commencé à faire des partenariats, on a fait un partenariat avec avec Chakari qui on a mis en place du coaching gratuit coaching, pour les vétos pendant le Covid. On a mis en place voilà un coaching pour la maternité hein qui a été sur lequel j'étais bien bazardée sur les réseaux. Voilà, on a mis tout un tas en place, un tas de choses. Et puis, c'est comme ça qu'est née aussi Emilia, la vétote à l'aise dans ses bottes, qui est en pause aujourd'hui, mais que j'ai bien l'intention de reprendre. Enfin, qui était juste enfin, génial. Enfin, quand on a commencé, quand j'ai commencé à rédiger, je me suis replongée dans mes expériences de véto et je me suis dit mais j'ai tellement de choses à raconter, toutes ces trucs que j'ai vécu qui maintenant avec la casquette que j'ai aujourd'hui, le recul que j'ai pris, les conseils que je donnerais à cette petite vétote qui était moi en fait hein, enfin qui est toujours moi en fait, et de ressentir que ça bouge derrière et que les gens sont contents, enfin surtout les jeunes vétos, d'avoir ces postes et de se dire ah là je suis pas tout seul, ah oui c'est comme ça que ça se passe, et de rester sur le côté bah vraiment d'où des choses quoi, ce qu'on voulait, ça c'était du coup dans les valeurs, je passe dans la mission, les valeurs, voilà, on voulait quelque chose de bienveillant, on voulait quelque chose de mais quand même léger, enfin qui on était en fait, donc on voulait s'éloigner de ces de ce marasme négatif des réseaux sociaux avec clairement hein, des murs à plaintes où enfin finalement les gens s'enfoncent les uns les autres hein, sans même le vouloir. On s'est dit allez non c'est pas ça qui va faire bouger la profession quoi, il faut mettre du positif dans tout ça, il faut sortir de ce mode victime, il faut chercher des solutions surtout quoi. Et donc bah ça a commencé à vraiment prendre de l'ampleur en parallèle et c'est venu alimenter c'était génial parce que c'était vraiment du coup tout prenait forme parce que c'était vraiment notre mindset en tant qu'entreprise quoi, et à trois on s'est vraiment on était dans cet engouement incroyable pour mettre en place tout ça et les gens le ressentaient quoi, enfin on a fait des trucs ceux de la VEF qui s'en souviendront, mais on avait fait à 3 ans même pendant le Covid, ils avaient fait un AVEV en ligne et ils nous avaient demandé si on voulait sponsoriser et c'était un gros billet parce que nous on rentrait pas d'argent, moi je faisais du conseil sur le côté pour alimenter l'entreprise et donc c'était je pense 500 € un billet pour mettre une pub. Et j'avais dit à Séverine, non mais en fait là on peut pas faire un truc institutionnel quoi parce qu'en fait ça va passer dans tout le reste. Et je sais même plus comment j'ai eu l'idée, mais je dis, ce serait cool, un truc Walt Disney, un truc comme ça, ça pourrait être sympa. Et, d'ailleurs, vous pouvez le trouver, hein, ceux qui veulent pas aller le voir, on mettra le lien.
On mettra le lien dans les commentaires.
Et donc, on est parti sur Aladdin et sa lampe magique, et on a mis la musique Aladdin, et on a changé les sous-titres avec du texte sur la télémédecine, comment on allait exaucer vos vœux.
J'ai pas vu passer ça.
Et on a apparemment Jean-Marie Denoy qui dansait en arrière-loge, enfin, tout le monde s'est marré, et ça, du coup, on était super contents mais c'était ça, c'était nous, quoi. C'était nous, on s'est dit non mais en fait on sort des carcans et on a vraiment envie de mettre en place ce truc et pff, tant pis si on se ramasse, que ce soit sur le côté télémédecine, que sur le côté accompagnement des vétos sur ce sur quoi on croit, on le fait jusqu'au bout et on verra bien où ça nous mène quoi.
Donc une très chouette expérience.
Une expérience incroyable, juste à la fin qui a été un peu triste quoi, parce que du coup on commence à se rendre compte que télémédecine c'était en fait on avait le choix. En fait on s'est dit bon, là, c'est vraiment très lent. C'est très lent, c'est très compliqué. On passe énormément de temps. Enfin, moi, je passais un temps de dingue avec nos cliniques, les vétos, etc. Mais je prenais plaisir, hein, mais c'était juste à un moment donné, il faut gagner sa vie, quoi. Nous, il me restait 6 mois de chômage, on rentrait rien. On se disait, là, comment on fait, quoi? Et donc, on s'est dit, là, on tente le tout pour le tout. Donc, on a fait tout un truc d'accompagnement de télémédecine, on faisait des mailings par semaine avec des petites tâches, on fait un truc de dingue qui marchait. On s'est dit en fait si ça marche, on se dit peut-être qu'il y a une possibilité de mais en vrai quand on calcule, enfin on peut pas parler finance hein, mais quand on commence à compter voilà le temps passé et la rentabilité quand on passe du temps comme ça, c'est pas gérable. Enfin bref. Mais en même temps, et parfois l'univers fait bien les choses. Depuis janvier, mon associé Romain avait des difficultés familiales au point de, enfin, ça allait plus, quoi. Ça allait plus. Il essayait de mettre de l'énergie dans le développement, mais il n'arrivait pas. Et nous, on était très peinés parce que, et c'est là où, voilà, c'est les expériences d'entreprise qui sont compliquées quand on lance une boîte, c'est que, bah, on est associé, mais on est amis. C'est le seul truc que je regrette aujourd'hui, c'est je n'ai pas fait la part des choses. J'aurais dû dire stop plus tôt. Mais j'ai voulu lui donner sa chance parce que je me suis dit c'est un mauvais cap, ça va passer, et en fait c'est pas passé, et au bout de 6 mois c'est à ce moment-là que je lui ai dit stop, et il y a eu beaucoup de colère, c'était de notre faute, enfin il y a eu toutes les beaucoup blessures qui sont sorties, ça a été très douloureux, vraiment ça a été très douloureux, donc voilà, et du coup on s'est arrêté de manière assez abrupte, enfin nous on avait encore des clients. On avait des clients, et donc j'avais aussi ce côté, mais je veux pas tout lâcher, quoi. Enfin, là, on avait plus de plateforme, rien. Et là, j'ai eu la chance, j'avais rencontré, Jean-François Audrin, de Livevet, et, on avait vraiment sympathisé. Et en fait, de toutes les plateformes, c'était celle qui ressemblait plus ou moins à la nôtre. Et donc, je l'ai appelé en catastrophe, en fait. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux reprendre mes clients? Et il me dit, écoute, Sophie, enfin, c'est que de la canine, quoi. On fait pas des kines. Je fais, oui, je sais. C'est pour ça que j'ai fait des kines, parce que personne fait de l'équine. je raccroche dépité. Et il me rappelle une demi-heure plus tard. Il fait, écoute, Sophie, je vais t'aider. On va mettre en pause 2-3 choses et on va développer les kines pour toi, quoi. Le mec, je dis, oh, j'aurais été en face de moi, je l'aurais embrassé, quoi. Et c'est d'ailleurs comme ça que est né finalement mon partenariat avec Livevet, parce que voilà, je continue à les aider. Et donc lui, il m'a sauvé. Donc là, j'ai mis nos peu de clients, enfin, surtout nos bêta-testeurs, en vrai, hein, sur la plateforme pour qu'ils aient quelque chose. Et puis, ça, c'était juillet. Et avec Séverine, on s'est dit, encore une fois, on était vraiment fatigués. De par le côté entrepreneurial, mais de par aussi la dernière partie avec Romain qui avait été vraiment dure, on s'est dit on fait pause. On avait prévu des vacances dans les Alpes toutes les deux fin août, et on s'était dit à ce moment-là on se replonge dedans, mais là on se fait un mois off. Autant dire que j'ai bien dormi encore une fois, je me suis bien reposée. Et en même temps, c'est comme ça que je rencontre Covessia. C'est qui est ta question d'après, j'imagine.
Exactement. Parfait. Voilà. La transition est parfaite. Comment tu arrives chez Covessia?
Donc, je vais à Numanima. Parce que j'avais eu Annick Valentin Smith au téléphone, à qui que je m'en remets le bonjour si elle écoute, que j'apprécie énormément aussi. Et qui m'appelle aussi, qui me dit, ah, si tu veux venir, si Maïvet, je fais, si Maïvet, c'est plus trop ça. Elle fait, mais viens quand même. Et donc, je vais à Numanima. Là, je suis assise en train de regarder un truc, une présentation, et je reçois un message d'un ami, Grégoire Corté, qui est un des vétérinaires d'une des cliniques fondatrices de Covessia, qui m'envoie un message en disant, j'ai vu sur LinkedIn que t'as arrêté, est-ce que tu connais Covessia, faut qu'on parle. Bon, moi, je t'entends dire que je n'avais jamais entendu parler de Covessia. Mais je profite, d'où la précision que j'étais chez Numanima, j'en profite d'être là pour parler un peu à gauche à droite, pour savoir qui connaît qui Covessia. Et finalement, en creusant, j'ai plusieurs personnes qui me disent, Covessia, c'est un nouveau groupe, fondé par deux cliniques vétérinaires, une troisième s'est joint à l'équipe, ils sont sympas, c'est balbutiant, ils sont en train de se développer, etc. Ils ont des belles valeurs, patati patata. Ok, why not, quoi. J'avais toujours, j'ai connu les groupes bien avant qu'ils arrivent en France. Hein, moi j'ai connu les groupes en Angleterre quand ils sont arrivés, et ils ont pris pleine ampleur quand j'étais chez Audemars. Donc j'avais un avis, on va dire, mitigé. J'avais vu des belles choses, comme j'avais vu des choses un peu moins sympas, évidemment.
En tout cas, t'avais pas un avis ultra défavorable.
Non, non. Mais un petit ça reste un groupe à voir, voilà. Pardon. Et donc Grégoire m'appelle, je pense le lendemain, et puis il me dit, faut que tu rencontres Jean-Mathieu, qui est toujours le DG. Et donc on fait un call, on s'entend bien, je vais là-bas. Donc ça, c'était juillet, hein. Et du coup, ils me disent, bah, voilà, on peut te proposer, qu'est-ce que tu le vois comme poste? Bah, je fais marketing et com, c'est un peu mon domaine. Et donc, voilà. Et là, j'ai quand même, encore une fois, j'arrive à, là, quand même, je dis, non, mais là, je peux pas commencer tout de suite, quoi. Là, il me faut un mois de rab. Même s'ils étaient déjà à la bourre sur les congrès de fin d'année, j'ai dit, non, mais là, je prends un mois et puis je viens. Puis je viens travailler chez vous, quoi. Donc voilà, donc c'est comme ça. Et donc finalement, mais à ce moment-là, je m'étais dit, bah qu'est-ce que je fais de mes podcasts et qu'est-ce que je fais de Emilia, parce que
Oui, parce qu'il y avait Parole de Veto à ce moment-là, ouais. Qui était publié régulièrement sur la partie Emilia des réseaux sociaux.
C'est ça, exactement. Et donc je le sentais pas de le laisser. Donc ça, je l'avais. Donc ça, on en avait parlé avec Covessia. Et j'ai dit, bah ça, je continuerai quoi qu'il en soit, je continue. Mais évidemment, c'était difficile pour moi de faire avec la même énergie. En tout cas, mes posts qui étaient quand même réguliers. Je sais plus si je faisais deux fois par semaine ou une fois, mais en tout cas, c'est quand même assez soutenu. Donc évidemment, ça s'est un peu espacé. Mais je voulais continuer à avoir cette partie qui m'épanouissait. Ceci étant dit, la raison aussi pour laquelle j'ai pris le poste chez Covessia, qui m'a convaincue, c'était aussi que j'avais le ressenti que ce que j'avais commencé à mettre en place avec Simaivette et Emilia, que cette expertise-là, je pourrais la mettre en place dans un groupe.
Et à plus grande échelle, du coup.
Et à plus grande échelle, voilà, exactement. Que là, j'étais sur des individus et que je pourrais continuer cette partie d'individus, mais que là, à l'époque, je pense qu'on était une trentaine de cliniques, que je savais que rapidement, on serait 50, 60, 70, je savais pas combien de cliniques. Donc je me dis, génial, en fait, là, je peux vraiment faire une différence. Peut-être que c'est prétentieux, hein, maintenant je... En tout cas, c'était mon mindset de l'époque, de me dire, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, je pourrais le faire à plus grande échelle chez Covessia, quoi.
D'accord. Et c'est là où je suis arrivée, en te disant, mais attends, Sophie, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour faire un podcast. Du coup, parfait. Je voulais qu'on parle un petit peu de cette partie-là. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette première saison de Veto Micro? Et puis, pourquoi t'as accepté de rempiler sur une deuxième?
Ouais, il y a tellement de choses qui me viennent en même temps. Je me rappelle de notre conversation. Enfin, on est très synchro, hein, toutes les deux sur notre... j'ai l'impression qu'on pense à un truc et l'autre à penser ou vice-versa. Et je me rappelle que je t'avais envoyé un message en mode... je pense que tu m'avais quand même laissé sous-entendre que le podcast, ça pouvait être quelque chose d'important. Et je pense que ça avait un peu germé chez moi. Et puis, je me suis dit, mais comment je vais faire si je dois faire plus de podcasts, etc. Et puis, je t'avais droppé un petit message en me disant, ouais, je sais pas, j'envisage potentiellement un 4/5e. Et tu m'avais dit, c'est super parce que
oui, c'est vrai.
moi, je veux quelqu'un pour faire un podcast.
C'est une petite note vocale parce qu'avec toi, je me suis mise une note vocale.
effectivement. Et donc, c'était génial parce que, en fait, ça m'a permis de professionnaliser le podcast déjà, parce que je faisais au mieux que je pouvais avec les moyens que j'avais.
Oui, là, on a une équipe, hein. On a quelqu'un qui monte, on a une régie podcast dans l'entreprise. Donc, c'est sûr qu'on a mis le paquet d'un point de vue professionnalisation dès le début. Et peut-être c'est ça qui a fait la différence. Pas que, hein, je pense. Mais c'est vrai que ça nous a permis d'avoir une forme de confort, je pense.
Ouais, une forme de confort et puis de rigueur aussi, tu vois. Quand on faisait Parole de Veto, pour rappel, c'était des petits entretiens de 10-15 minutes pour les vétos qui, au départ, c'était n'importe quel véto, et puis finalement, c'était des vétos, on faisait ça en partenariat ensemble, et c'était des vétos qui recrutaient. Mais voilà, c'était un peu sur le tas, le son n'était pas toujours terrible, mais bon, on s'en foutait un peu. Enfin voilà, là, il y avait un vrai cahier des charges, quoi, où on se disait voilà le cahier des charges au niveau qualitatif du podcast et aussi au niveau de ce qu'on voulait mettre dedans et voilà comment on voyait les choses d'un point de vue beaucoup plus pro, quoi. Et ça c'était chouette. Je sais pas si je l'aurais fait, tu vois, toute seule, quoi, ou en tout cas là c'était un passe-temps, en fait, pour moi, finalement. Et là on vient sur un ça m'emmène sur un truc que j'allais dire, ben là c'est toujours un passe-temps parce que ça me fait plaisir. Et ça c'est une injonction de fou parce que quand du travail ne peut pas être du plaisir quoi. Ça c'est vraiment un truc qui m'énerve en me disant, je dis mais c'est n'importe quoi ce que t'es en train de dire. Donc ça reste un vrai plaisir pour moi aujourd'hui, mais c'est une approche beaucoup plus professionnelle que j'aurais fait si je l'avais gardé juste entre guillemets en passe-temps comme je le faisais. Donc ça c'est déjà énorme. J'en retire un travail en binôme avec toi qui était juste top, enfin qui est toujours juste top parce qu'on rempile.
Bah oui, on rempile.
Voilà. Ça c'est
plaisir
chouette.
Partagé.
Des gens qu'on a enfin toutes les deux interviewés, mais enfin des histoires enfin incroyables. Moi je reste moi ce que j'adore du podcast que ce soit en l'écoutant ou en les faisant c'est rentrer, ça va faire un peu voyeur ce que je vais dire, mais c'est rentrer dans l'univers de la personne. Alors ici on est en face à face. Marine, tu sais que moi je préfère le me cacher derrière mon casque quand je fais mes podcasts.
C'était ma question d'après. Alors c'est face à face, les yeux dans les yeux, mais tu pourras répondre
c'est
après.
Ça. Donc moi j'aime ce que j'aime, j'apprécie chez le podcast, c'est pouvoir être pleinement présent et donner cette présence à me la donner à moi déjà parce que c'est quelque chose qu'on fait pas beaucoup dans nos quotidiens et la donner à la personne que j'interview que j'écoute et ça c'est je pense que c'est ce que les gens apprécient le plus en fait et c'est vraiment on rentre dans l'univers et c'est un moment d'intimité hyper fort. Où les gens me font confiance, où nous font confiance, et ça a pas de prix en fait, ça. Et tout ça avec des sujets incroyables qui finalement, dont on sort grandi. Alors pas toujours positif, enfin pas toujours enjoué parce que
oui, il y en a qui sont difficiles. Oui.
Mais voilà, de pouvoir partager ça et que ces gens nous permettent de partager ça au plus grand de la profession, de voir à quel point ça explose aujourd'hui, de se dire que ok, ça c'est vraiment un truc qui fait du bien à la profession. Moi, ça me, enfin, j'en ai la gorge nouée quoi. C'est pour moi c'est incroyable et c'est pour ça que je rempile au-delà, voilà, de comme j'ai dit binôme, enfin toutes ces choses-là. C'est je crois tellement en ce projet et en ce c'est partage que je pourrais pas hésiter de ne pas réempiler sur une deuxième session.
Bon, bah, tant mieux, mais je te rejoins là-dessus. En fait, c'est, peut-être nos auditeurs se rendent pas compte, mais en fait, cette heure et demie dans l'intimité des gens, c'est un truc de fou, en fait. C'est vraiment génial. Ouais. Bon, alors, petite question d'après, alors, quand c'est en présentiel, les yeux dans les yeux.
Alors je sais pas, tu vois, je me suis posé la question plusieurs fois, je me suis dit, est-ce qu'il faudrait que je le fasse quand même? Je me suis même dit, bon, peut-être qu'il faudrait que je change de format, que j'aille parfois de temps en temps dans les cliniques le faire, tu vois, j'ai réfléchi à plein de choses et... Moi je suis très auditive, donc... Là c'est pas mal, hein, parce qu'on a le casque, on est un peu, tu vois, quand même, je suis un peu dans la même bulle. Tu remarqueras que j'ai quand même du mal à te regarder tout le temps
ouais,
dans les yeux.
Ouais, t'as du mal, effectivement, ouais. Ouais. Mais la plupart ailleurs. Des gens c'est comme ça.
C'est vrai?
Ouais, ouais.
Bon, ça me rassure. Alors là, on se connaît aussi, donc c'est différent. Est-ce que si j'avais, contrairement aux apparences, je suis quand même quelqu'un d'assez timide, quoi. Je sais, les gens qui écoutent, qui me connaissent, vont dire. Donc avoir, tu vois, j'aime. C'est une vraie, c'est un peu une
c'est plus impressionnant hein, d'être en face des gens, bien sûr.
Ouais, c'est plus impressionnant. Et ouais, comme je suis auditive, il y a ce côté présence et je suis. Même en visio, hein, moi je préfère. Je trouve qu'on est vite happé par d'autres énergies quand on a quelques personnes en face de soi. Alors bien sûr, on perçoit beaucoup de choses par le son aussi, hein, mais ouais, ça m'enlève un peu quelque chose. Alors, comme je dis, dans ce cas-ci, peut-être moins parce qu'on se connaît et que du coup, voilà, on est pleinement en confiance. Mais ouais, je pense que je vais pas changer tout de suite.
Pas de problème. Bon, il me reste mes petites questions de la fin. Parce que je vais leur tourner. T'as une vie professionnelle riche et mouvementée avec des périodes de surmenage. Qu'est-ce que t'as mis en place comme garde-fou? Je veux dire, est-ce que tu utilises ton temps libre pour te ressourcer et qu'est-ce qui t'équilibre en fait?
Alors, c'est un peu une drôle de question hein, vu que je suis en burn-out, donc je suis pas sûre que...
T'es en pleine réflexion
tout, voilà.
Sur le sujet.
Oui, et ouais. Que bon, clairement, apparemment, mes garde-fous ne sont pas aussi bons gardes
bien
que
sûr.
Ça. Mais clairement, j'ai mis en place des choses hein, malgré ça. Et aujourd'hui, je suis bien sûr en pleine réflexion et je me soigne et je vais pas rentrer dans les détails. Les garde-fous, se ressourcer, bien sûr. Moi, je suis quelqu'un qui est très vite surchargé, surmené par les interactions, les bruits, les stimuli. C'est pouvoir me retirer de ça. C'est me balader dans la nature, hein, me retrouver, prendre des temps. Pour moi, je me suis vachement améliorée dans le dire non sur, on va dire, peut-être les deux dernières années. Pas se sentir obligée de tout le temps aller boire un verre, aller manger avec des copains. Oser annuler si vraiment on se sent pas en forme. Alors là, on aurait, enfin voilà, je jouerais un peu l'avocat du diable en disant si on doit commencer à annuler régulièrement, c'est qu'il y a peut-être déjà un souci. Mais en tout cas, voilà, ça c'est quelque chose que je m'octroie. J'ai pris un petit chien, malgré tout, qui est là avec nous aujourd'hui.
Qui en a marre, qui s'ennuie là.
qui est assis depuis 9h ce matin dans le train. Mais ça a pas de prix non plus. Enfin, ça me permet aussi de changer des idées. Enfin, c'est les animaux. On doit s'en occuper. On n'a pas le soin. Quand ils veulent sortir, il faut sortir. Ils veulent les promener, on les promène. Et ça force vraiment. Il y a une différence entre devoir sortir sur l'heure du déj parce qu'on se force et le chien est là, donc on se pose même pas la question. Donc ça, c'est sûr. Tout ce côté, en tout cas, faire un peu de sport. Bon, je fais du trail aussi. Alors, pareil, je m'y suis remise récemment parce qu'évidemment, j'ai fait une pause. Mais ça me permet aussi, bien sûr, de me fatiguer un peu physiquement et de prendre des bols d'air frais. Là où je suis peut-être pas assez forte aujourd'hui, sur lequel je travaille, c'est peut-être ne pas donner mon empathie toujours aux bonnes personnes. Je donne mon empathie à tout le monde. sans tri, exactement. Et en fait, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que c'est épuisant, évidemment, de faire ça et qu'on ne doit pas. De toute façon, c'est prétentieux de se dire qu'on doit sauver les gens. Mais je pense que on souffre un peu de ça, hein, tous, en tant que vétérinaire, hein, le syndrome du sauveur, côté sacerdoce. On veut sauver tous les animaux, tout le monde. On peut pas déjà, il y a des gens qui ont pas envie et en fait faut que j'apprenne que tout le monde n'a pas le même état d'esprit que moi sur ce que j'ai envie de mettre en place dans la profession et c'est pas grave. En fait, il y en a qui ont envie de faire ça avec moi et c'est OK si tout le monde et donc ça c'est un on va dire un gros apprentissage plus récent mais voilà, ce côté garde-fou là, il est pas encore au point pour moi et ça c'est quelque chose sur lequel faut que je travaille.
Ensuite, une question que tu connais. Alors d'habitude ma question c'est qu'est-ce que tu dirais aux consoeurs et aux confrères qui? Mais évidemment, je vais pas résister à l'envie de te la poser sous forme version Sophie. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune Sophie fraîchement diplômée qui avait des ambitions plein la tête?
Alors j'y ai délibérément pas réfléchi hein. Parce que je trouve que c'est une question qui vient bien de manière spontanée. Je pense que je voudrais lui dire sois un peu plus indulgente envers toi-même ou un peu plus douce avec toi-même. Sois patiente. Tout vient à point qui sait attendre. C'est pas toujours mon fort. Fonce un peu moins tête baissée. Regarde un peu plus autour de toi. Je pense que c'est tout.
C'est déjà pas mal.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Peut-être un bon rétablissement. Parce que je suis encore en phase. Ça va beaucoup mieux depuis un mois.
Oui, je suis contente de te voir, de voir ton sourire. C'est pour ça qu'on a programmé aujourd'hui. Et effectivement, on sent que tu as une meilleure voix qu'il y a quelques semaines ou quelques mois.
Ouais, je pense qu'il y a un mois, je me sentais peut-être pas encore capable de faire ce podcast. Donc en un mois, là, j'ai vraiment repris du poil de la bête physiquement et mentalement. Donc juste envoyez-moi toutes vos bonnes ondes pour que le sourire et l'énergie, je pense que les avoir retrouvés, je redeviens la Sophie que tout le monde connaît, donc ça fait du bien aussi au moral. Et puis voilà, c'est tout. Et enfin, la santé, c'est la vie, quoi. Donc un bon rétablissement, vous pouvez me souhaiter. Et puis aussi, moi, j'ai envie de dire, surtout prenez soin de vous parce que un burn-out, c'est plus vite arrivé qu'on ne le pense, quoi.
Oui, c'est un bon conseil, je pense. Comment les gens peuvent te contacter?
Par mail, je pense que c'est le plus simple. Par mail, sophie.wilford@gmail.com.
Ou sur le mail du podcast, podcast@temavet.fr.
Ouais, voilà, c'est ça. Si c'est des trucs... Après, oui, aussi sur... si MyVet, je réponds aussi. Je suis encore... Même si je poste plus aujourd'hui, je mets des stories de temps en temps, mais voilà, je réponds
donc
aussi.
Donc sur Instagram, là,
sur Instagram, ouais. Sur Instagram, je suis quand même moins sur Facebook aujourd'hui, mais ouais, sur Instagram aussi, possible de mettre un petit message par là sans problème, quoi.
Ok. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose?
Ah, je sais pas. Combien de temps on a parlé?
Je sais pas. Attends, je vais regarder. On est à 1h50.
Ah ouais, pas mal, pas mal. Pas mal. Bon, bah, si les gens sont arrivés...
Ouais, c'est le dernier épisode de la saison, hein. On a le droit.
Alors, si les gens sont arrivés jusqu'à là, franchement, bravo, parce que... je sais que je donne beaucoup de détails, c'est plus fort que moi.
Donc il y j'espère, a plein d'anecdotes.
J'espère ne pas les avoir, trop ennuyés. Mais non, je pense qu'on a couvert tellement de choses. peut-être qu'on couvrira, ouais, l'histoire du burn-out et de la dépression dans la profession ou dans les professions, peut-être
une prochaine fois. Merci beaucoup, Sophie. C'était vraiment très cool, cette interview. Moi, j'ai appris plein de trucs alors qu'on avait déjà fait cette fameuse interview écrite. Mais ça me fait dire que finalement, le podcast, c'est vraiment... Voilà, il y a une dimension supplémentaire parce qu'on prend le temps, on creuse un petit peu plus. T'as un parcours très riche, très varié, évidemment multicasquette. Mais du coup, c'est intéressant de l'avoir dans son entièreté parce que on en comprend toute la cohérence. Et évidemment, c'était le parcours idéal pour finir cette saison puisqu'il démontre qu'il y a bel et bien 1000 façons d'être vétérinaire. Au revoir, Sophie.
Salut, au revoir tout le monde.
Voici le moment venu de clôturer cette première saison de Vétomicro, qui a été d'abord une des plus belles expériences de ma vie professionnelle et aussi un succès d'audience inespéré, puisqu'on frôle les 200 000 écoutes en cumulé. On a entre 20 et 27 000 écoutes mensuelles, plus de 6 000 auditeurs uniques par mois, certains épisodes qui, avec les rediffusions, ont été écoutés plus de 10 000 fois. Bref, c'est complètement fou. Donc, un immense merci à vous, nos auditeurs, nos consoeurs, nos confrères, parce que vous êtes au rendez-vous tous les vendredis pour vous écouter les uns les autres. Et ça, je crois que c'est notre plus belle victoire.
On se retrouve le 1er septembre avec des épisodes inédits pour rencontrer de nouveaux invités, des hors-séries internationaux avec des confrères anglophones et plein de surprises. Et pour vous faire patienter d'ici là, on vous a concocté un hors-série de l'été avec 4 interviews passionnantes d'ASV qui seront diffusées du 7 au 28 juillet. Et en août, on mettra bien sûr vos épisodes préférés de la saison 1 en rediffusion.
Passez de belles vacances ensoleillées, profitez de vos amis, de vos familles et on se retrouve à la rentrée.
Très bel été à tous.
Et à bientôt sur Vétomicro. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.